Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vous sors enfin l'épisode de podcast sur mon retour d'expérience sur ces fameux 10 jours pour lesquels je viens de rentrer. Je suis partie du 30 août au 11 septembre pour une aventure vraiment incroyablement intense. Je pense que c'est, si je devais résumer cette aventure, c'est à la fois la pire expérience de ma vie, la plus inconfortable que j'ai vécue, autant sur le plan psychologique, mental que sur le plan physique, et à la fois la meilleure expérience de ma vie, la plus transformatrice, la plus incroyable, la plus dingue, vraiment. Pour mettre un peu de contexte, c'est en fait une de mes premières clientes, donc c'était il y a 2 ans, il me semble, Laure, qui m'avait parlé, je ne sais plus pour quelle raison, comme quoi elle avait fait ce stage qui s'appelle le stage Vipassana, c'est un stage de méditation. Je vais t'expliquer exactement ce qu'ils disent parce que c'est ce qui m'a intriguée dans l'écriture et je trouve que ça résume super bien. En gros, l'objectif, c'est de voir les choses telles qu'elles sont réellement. En fait, c'est une technique qui est enseignée pendant 10 jours pour t'apprendre les bases de cette méthode de méditation qui est l'une des méditations les plus anciennes. Donc ça a 2500 ans, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Et c'est enseigné comme dans le but d'un remède universel au mot MAUX, universel. En fait, c'est comme si on t'enseignait l'art de vivre. Et c'est enseigné pendant 10 jours. On t'apprend les bases de cette méthode et tu vas pratiquer suffisamment pour obtenir des résultats bénéfiques. À savoir que ce stage, il est également proposé en prison et pour des cadres et dirigeants. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable. Et à la base, donc Laure m'en avait parlé parce qu'elle avait vécu, ça m'avait intriguée, mais je pense que j'étais pas ouvert d'esprit à ce moment-là pour le faire. Et en fait, actuellement, plus j'évolue et plus j'ai envie d'aller tester, ok, dans le concret, ben, qu'est-ce qui se passe dans mon mindset, où j'en suis et en vérité, vérité, ben, quel niveau d'état d'esprit j'ai, parce que être un coach mindset à la base, ça veut dire état d'esprit. Et donc, je suis censée coacher les gens sur l'état d'esprit, mais je pense que la base des bases, c'est de montrer l'exemple, d'incarner bah, ce que c'est de travailler son état d'esprit, de le faire évoluer, d'aller le bah, vraiment se apprendre dessus, s'enrichir, mais surtout le développer à fond, 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 parce que ma seule limite pour mes clients, c'est moi-même. Donc, forcément, moins je m'intéresse à mon état d'esprit, moins je le fais évoluer, moins je sors de ma zone de confort, et moins je peux accompagner mes clients vers quelque chose d'énorme et de super grand. Et pourquoi j'ai voulu faire ça de base? Parce qu'en fait, actuellement, j'ai créé des concepts de coaching qui sont uniques et qui n'existent sous aucune forme chez les autres coachs, en tout cas en France, à l'étranger, je ne pense pas en avoir vu non plus, peut-être que ça existe. Et en fait, j'étais super frustrée parce que pour moi, ce qui est important, il n'y a pas de changement sans inconfort. Donc, je fais vivre des expériences inconfortables à mes clients qui leur permettent de dire, mais waouh, j'ai vécu une expérience. Enfin, trop, trop génial, et c'est du concret, c'est des trucs inconfortables, c'est tu bouges et tu vis, et tu vas t'en souvenir toute ta vie. Et j'étais un peu frustrée de pouvoir le faire vivre à mes clients, de voir l'impact que ça a sur eux et tout ça, et moi, en fait, au final, de pas pouvoir le vivre, parce que dans le but de tout ce que je crée, c'est de créer des choses que moi, j'aimerais vivre et qui m'impacteraient si je les faisais. Donc, je crée beaucoup dans ce format-là. Et des fois, c'est vrai que j'avais ce truc en mode, mais moi aussi, j'aimerais vivre ce genre de choses. Sauf que je ne peux pas le faire de moi-même sur moi-même. Évidemment, ça n'a pas du tout le même impact. Et aucun coach ne propose ce que je propose. Donc, du coup, ce n'est pas forcément possible. Et quand j'ai regardé un peu la description de ce stage Vipassana, je me suis rendu compte que ça touchait, ça se rapprochait un peu de la manière dont j'apportais les choses. Donc, je m'étais dit, mais waouh, super expérience. Pour moi aussi, vivre une expérience transformatrice, challengeante et nouvelle, et voilà, vraiment un truc que pour moi, et vraiment centré sur mon évolution, et aller voir aussi ben, qu'est-ce que je vaux mentalement, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, et dans l'esprit en général, et ben, finalement, comment je m'en sors, qu'est-ce que ça peut me générer, quelles pensées j'ai, et tout ça. Ce que je savais, c'est que je savais que ça allait être quelque chose de compliqué, je savais que ça allait être inconfortable, je savais que ça allait être difficile, on m'avait un peu parlé, même si j'avais absolument aucune envie d'entendre les expériences des autres, parce que j'avais absolument pas envie d'être conditionnée mentalement par les expériences des autres, parce que chaque expérience est propre à une personne, et c'est pas parce qu'une personne le vit d'une certaine manière que je vais forcément le vivre d'une certaine manière. Donc j'avais pas envie d'entendre les expériences des autres, en tout cas en amont, pour pas avoir d'association de pensée en lien qui viennent me biaiser en fait ma manière de voir les choses et qui viennent bah, sur le terrain en fait m'amener à me comparer à ce que j'avais entendu auparavant. Donc je voulais vraiment partir avec un esprit pur. Alors oui, j'avais quelques idées, mais rien de plus. Et ça, franchement, ça change vraiment la vie. C'est une des raisons aussi pour laquelle je ne parle quasiment pas du contenu de mes offres, pour pas que les gens se conditionnent en amont à ce que c'est, à ce qu'ils vont vivre, parce qu'en fait, ça a un impact vraiment énorme sur l'évolution, je trouve, quand tu as le contenu de quelque chose et quand tu ne l'as pas. Donc là, je voulais vraiment partir en mode inconnu, avec un peu de un peu de connaissances quand même, mais vraiment en mode je me laisse porter, je sais pas ce que je vais vivre, je sais que ça va être compliqué, je sais que je vais galérer, et puis on verra comment ça se passe. Donc à la base, je voulais vraiment faire ce stage en mode curiosité et vraiment en mode nouvelle expérience, aventure, sortie de zone de confort. Donc c'était vraiment dans ce but-là. À savoir que de base, donc ça faisait 1 an que j'étais sur liste d'attente parce que c'est quelque chose de très prisé, donc c'est international. On n'est pas très ouvert esprit en France pour faire ce genre de choses parce qu'on n'est pas très ouvert sur l'idée de développer notre esprit. Donc c'est tout, ça va venir au fur et à mesure, mais en tout cas c'est très développé à l'international. Donc j'ai été faire ce stage en Belgique, pas très loin. Au début je voulais le faire au Népal ou quelque chose comme ça. Je m'étais dit waouh, contexte et tout, ça n'a aucun intérêt de partir dans un autre pays pour le faire parce que tu es enfermé pendant 10 jours, tu ne peux pas sortir du lieu. Donc c'est hyper encore plus frustrant, je dirais, d'aller dans un super lieu et de ne pas pouvoir finalement en profiter parce que bah, tu es en train de vivre ce stage. Donc j'ai choisi la facilité. J'ai pris un lieu qui était bah, au plus proche de moi. Donc il y avait aussi en France, mais c'était plus loin. Donc j'ai choisi du coup la Belgique. Pour mettre un peu de contexte, donc ça faisait 1 an que j'étais sur liste d'attente et j'ai su que je partais. Donc je me suis inscrite en avril pour ce stage-là parce que je me suis réinscrite plein de fois. J'étais sur liste d'attente, j'ai pas été prise et tout ça. Donc celui-là, j'étais inscrite en avril, j'ai eu la réponse en juin pour dire que j'étais acceptée pour le 30 septembre. Donc tu vois, ça met quand même du temps. Et ça, j'étais super contente. Et quand j'ai su que je partais, que ça y est, j'étais prise, parce que j'étais aussi sur liste d'attente à ce moment-là, eh ben, on va dire que j'ai commencé à lâcher un petit peu ma discipline peut-être et mon inconfort peut-être que j'avais dans mon quotidien, parce que je savais que j'allais vivre pour une fois dans ma vie, si je peux dire ça comme ça, une expérience assez extraordinaire et ultra inconfortable. Et donc, inconsciemment, je pense, avant de partir, j'étais dans un mood en mode, je vais me faire un surdosage de shoot de confort parce que je sais que là, quand je vais partir, je vais rien avoir. Donc, du coup, j'ai monté un peu en excès tout ce qui était alimentation malsaine et tout ça, plaisir immédiat. J'ai monté en excès tout ce qui était écran, donc que ça soit Netflix ou mon téléphone, beaucoup scroller tout ça. Je me suis couchée plus tard, je me suis réveillée plus tard, j'ai profité plus tard, je suis sortie. Enfin bref, j'ai fait des choses plus en excès de ce que je savais que je ne pourrais pas avoir pendant le stage, comme si tu vois, je voulais avoir mon shoot avant pour pas trop subir pendant. En tout cas, ça s'est surtout accentué, je dirais, 2 semaines avant. Et j'avais vraiment cette sensation en avant de me dire, ne prévois rien sur le après de ce challenge, sur le après de ce stage. Moi, j'appelle ça un stage parce que tu vas revenir chamboulé de ouf. Vraiment, j'avais un pressentiment que ça allait me chambouler vraiment beaucoup et que ça ne servait à rien de commencer à prévoir en rentrant des nouveaux projets ou autres avant de partir, parce que comme j'allais changer entre-temps, et ben pour moi, il serait plus d'actualité quand je rentre. Donc finalement, ça serait rentrer pour tout changer, annuler, revenir en arrière. Enfin voilà, je m'étais dit, il n'y a pas d'intérêt. Donc pour une fois, ralenti, n'ai pas de projet. Ça m'a vraiment chamboulé de ne pas avoir de projet, parce que j'adore ça, je suis quelqu'un qui est devenu, parce que là-bas, je pensais que je n'étais pas créative. Et en fait, on est créatif dans ce qui est important pour nous et dans ce qui nous anime. Et là, de me mettre un peu en mode stand-by et d'apprendre en fait finalement en amont avant de partir, d'être dans le moment présent et de me dire profite de ce que tu as là et ne vois pas dans l'avenir et voilà, vis les choses entre guillemets à fond ou en tout cas essaye de le faire. Et puis tu verras quand tu rentres ce qui se passera. C'était un peu déstabilisant, même si en même temps j'avais la sensation de le faire déjà un peu, d'être dans le moment présent. Là, vraiment, ça me forcé à l'être et à profiter encore plus. Et voilà, donc ça c'était vraiment l'amont. J'ai rien à dire de plus là-dessus. J'ai commencé à monter un peu en stress de l'inconnu, de je vais galérer, tout ça, parce que j'avais un discours à l'intérieur qui était je sens que je vais en chier, je sens que je vais galérer, je sens que ça va être une difficulté. Et ça, je l'ai senti 2, 3 jours avant. On va dire qu'en amont, j'étais en mode ouais, ça va être une expérience challengeante, mais ça va, c'est un stage de méditation, c'est pas non plus rien de folichon, même s'il y a des cadres pour t'expliquer un peu il y a un code de discipline à appliquer pour pouvoir vraiment appliquer pleinement cette technique. Il y a tout un process de règles à appliquer. Donc ça, je le savais déjà en amont, c'est inscrit sur le site, il n'y a pas de secret. Donc tu n'as pas le droit à tout ce qui est appareil électronique, donc pas de montre électronique, pas de téléphone, pas de PC et pas de musique et tout ça. Tu n'as pas le droit à tout ce qui est source de distraction extérieure à toi, c'est-à-dire tout ce qui est lecture, écriture, sport. Tu n'as pas le droit non plus de parler, donc c'est le silence pendant 10 jours. Tu ne peux pas regarder les gens non plus parce que ça crée une distraction, donc pas de signe, pas de sourire, pas de sein, pas de signe, de geste et tout ça. Tu n'as pas le droit à tout ce qui est drogue, alcool, à tout ce qui est cigarette, sexe. Tu n'as pas le droit. Je pense qu'on est bien là, non? Je pense que j'ai tout dit. Donc ça, c'était le code de discipline. Et quand j'avais lu ça, je m'étais dit, wow, pendant 10 jours, ne pas parler, ne pas utiliser mon téléphone. Ça me challengeait beaucoup sur le côté pro, parce que comme je travaille, bah, mon téléphone, c'est mon travail, en fait, finalement, c'est devenu ça. Je me disais, comment je vais gérer? Comment ça va se passer? Est-ce que les gens vont m'oublier? Parce que c'est un peu le truc, hein, tu vois, quand tu publies pas et tout, et finalement, j'ai fait en sorte d'avoir des publications qui sont publiées grâce à ma community manager Gina à ce moment-là, pour continuer à publier un petit peu. Bon, c'est marrant parce que comme j'étais moins là, j'ai vu que j'avais beaucoup moins d'interactions. Donc c'était assez drôle de voir que ben en fait c'est important que je sois présente moi-même sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait des interactions et que ça bouge et que les gens ben, soient inspirés. Parce que sinon, en fait, si tu mets juste des publications et que tu n'interagis pas avec les gens, ben, ça ne marche pas vraiment. Donc ça, c'était le code de discipline. Et surtout, j'avais vu un truc qui m'avait challengée quand je l'avais lu. C'était réveil à 4 heures tous les matins et coucher à 21h30. C'est-à-dire qu'en fait, de 4h30 à 21h, donc tu as 2 périodes de repas, le matin, le midi. L'après-midi, tu as le droit à des fruits et voilà, c'est tout. Donc je me suis dit, wow, en plus, comme j'étais en excès dans la bouffe, je me suis dit, ça va me faire tout drôle. Et me lever à 4 heures du matin, alors que les semaines d'avant, j'étais en mode, je me couche à minuit, 1 heure et je me lève à 8-9 heures, ça va me faire tout drôle parce que ça va me faire 5-6 heures de sommeil. Mais je m'étais dit, trop génial parce que d'un autre côté, ça va me mettre un cadre, une discipline et j'en ai besoin parce que là, j'ai lâché parce que je savais que je partais. Et je me suis dit, ça va être une opportunité aussi de venir me recadrer parce qu'on a besoin en fait d'un cadre, on a besoin de discipline dans notre quotidien pour faire en sorte de se sentir bien. Et ça, du coup, j'attendais ça. Donc ça, c'était pour le avant. Une fois que je suis arrivée là-bas, comment te dire? Je savais que j'allais en chier, vraiment, j'avais conscience, enfin, j'allais faire des choses qui étaient totalement inconfortables, mais je savais pas du tout que j'allais en chier à ce point, vraiment. Je pense que j'ai jamais subi autant mentalement quelque chose. En même temps, j'ai jamais vécu d'expérience de la sorte non plus. En fait, j'ai médité 100 heures en 10 jours. C'est-à-dire que j'ai littéralement médité 10 heures par jour. Pendant 10 heures, j'ai été assise en tailleur, en sachant que de base, niveau méditation, j'utilisais souvent l'application Petit Bambou. En fait, donc je ne faisais pas de méditation guidée, ça c'est ce que je faisais à mes tout débuts. Je faisais de la méditation avec juste une musique derrière, un gong de début, un gong de fin, des méditations entre 3 minutes à 10 minutes, allez, 3 fois par semaine, grand maximum. Et là, j'arrive, je ne savais pas du tout quelle technique c'était comme méditation. Je savais pas si c'était de la méditation guidée, je savais pas si c'était. Je savais rien en fait. Je savais juste que je venais pour voir les choses telles qu'elles sont, pour voir un petit peu ben, ce que c'est cette technique, qu'est-ce que ça apporte d'être retiré de toute source de distraction, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, quel genre de pensée je vais avoir. Mais alors, je me suis carrément abstenue d'aller regarder en profondeur ce que c'est pour pas me préparer psychologiquement. Et c'était hardcore, mais d'une puissance entre la discipline de ce que c'est, entre la technique hyper compliquée à appliquer, qui évolue tous les jours parce que c'est en fait un process qui est appliqué. C'était hyper challengeant pour moi mentalement. C'était ultra inconfortable. J'ai eu des moments de up and down, mais d'une puissance. J'ai eu l'impression Franchement, on aurait pu croire qu'on était bipolaire tellement qu'on en vit dans la même journée un nombre, mais incroyable. Donc ça, c'est les effets de la méditation. En fait, ce qu'ils disent souvent, le premier jour quand je suis arrivée, tu vois, j'étais un peu dans la nouveauté et tout ça. Franchement, ce qui a été le plus facile pour moi dans toute cette aventure, c'est le fait de me réveiller tôt, le fait de ne pas parler, le fait de ne pas utiliser mon téléphone, c'était le plus facile. Je m'attendais à ce que ça soit compliqué, parce que, bah, en fait, je suis souvent sur mon téléphone, vu que je travaille avec, donc énormément. Bah, j'aime trop parler et tout ça, donc voilà. Mais en fait, comme personne ne parle, comme tout le monde respecte le même code de discipline, bah en fait, tu peux pas biaiser ça. Ça devient la norme à ce moment-là, donc c'est pas compliqué du coup de faire différemment, enfin de le suivre plutôt. Donc ça allait. Pareil, personne n'a son téléphone, donc ben ça te donne pas envie de l'avoir parce que t'as pas de source de distraction à ce moment-là qui t'en amène. Pareil, pas de tout ce qui est plaisir immédiat, nourriture et tout ça. Pas de sucre, pas de malbouffe, pas de gras et tout ça, bah ça m'a fait un bien incroyable, vraiment de bien nourrir mon corps en fait et de lui donner du bon carburant pendant 10 jours, mais uniquement ça, aucun cheat meal, aucun petit écart, enfin le seul sucre que c'était via les fruits, enfin vraiment ça m'a fait un bien. Et en fait le combo de tout, de absence de distraction, pas de parole, focus uniquement sur tes pensées, pas de téléphone, réveil toujours à la même heure. Et en plus, en pleine nature, parce que t'es dans un cadre incroyable, dans un parc à chaque fois, une sorte de forêt où t'entends tous les animaux, parce que, ben oui, comme personne ne peut parler, tu respectes la nature. Et du coup, les animaux, ils prennent grave leur place, tu viens pas les déranger. Et c'est vachement intéressant. Je pense que j'ai jamais vu autant d'animaux en 10 jours. Et ça, c'était vachement cool. Mais c'était quand même assez bizarre de pas parler. Les premiers jours, parce que ben c'est carrément pas habituel, c'est carrément pas naturel, et en plus dans les chambres t'es pas solo, t'es avec une ou plusieurs personnes, ça dépend des centres, et du coup c'était un peu bizarre d'être avec une personne dans la chambre, tu sais pas qui c'est, tu sais pas comment elle s'appelle, et tu ne connais pas sa vie, tu sais même pas si elle parle français ou pas, on se regarde pas, on se dit pas bonjour, on se dit pas merci, c'était vraiment très bizarre. Très étrange, très dérangeant au début parce que ben c'est absolument pas naturel et en même temps l'impact que ça a, parce qu'en fait comme tu n'as aucune source de distraction extérieure, rien, c'est-à-dire que tu n'as rien pour venir t'inspirer, te donner des idées, te triturer les pensées, tu n'as que toi et tes pensées. Tu n'as que toi face à toi-même à ce moment-là, mais vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur contexte pour se retrouver soi face à soi-même, parce qu'il n'y a même pas de musique, il n'y a rien. Enfin, vraiment, c'est le néant total. Tu t'entends penser toute la journée, du réveil au soir. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais en général, les seuls moments où tu t'entends penser, c'est les moments où tu ne fais strictement rien. Tu n'es pas sur ton téléphone, tu n'es pas sur la télé, tu n'es pas en train de lire, d'écrire, tu n'es pas en train de parler. Souvent, c'est au moment où tu vas te coucher. Et c'est dans ces moments-là où tu vas entendre ta tête et où tu vas entendre finalement ben, quel style de pensée j'ai. Donc ça, il y en a, ils vont ruminer, il y en a, ils vont avoir des idées, il y en a, ils vont repenser à la situation de la journée. Bref, et ben moi, c'était ça toute la journée, H24, de 4h du mat à 21h30 au coucher. Et je me demandais vraiment quel type de pensée j'allais avoir, quel discours, quelles histoires j'allais me raconter, parce que je me suis dit, ça fait un peu flipper quand même parce que ça n'arrive pas dans ton quotidien. Enfin, il y a quand même très peu de laps de temps. On vit quand même dans une société où on est tout le temps dans la distraction et je m'en suis rendu compte via ce stage. Je savais que j'avais des distractions, je l'avais intellectualisé. Enfin, voilà, tout le monde sait qu'on est distrait. Mais j'avais pas du tout conscience qu'en fait, on était distrait, mais à 95% du temps et qu'on n'était jamais en train de rien faire et de prendre le temps de se dire, OK, il se passe quoi dans ma tête? Quel genre de pensée j'ai? Et qu'est-ce que j'ai besoin de taffer? Pour améliorer tout ça. Enfin, et là, c'est une opportunité de malade, justement, d'avoir le courage d'affronter son mental, de vive voix cette fois. Et c'était assez ouf. Donc, j'appréhendais un peu. Je m'étais dit, waouh, c'est là où je vais voir vraiment ben, où j'en suis niveau mindset. Est-ce que finalement, comme je suis beaucoup dans l'action et je suis quelqu'un de très très dynamique, je suis tout le temps en train de faire plein de choses parce que j'adore ça et tout. Donc ça me challengeait aussi de ne rien faire. Je m'étais dit, waouh, j'ai trop peur de m'ennuyer, de subir et tout ça. Bon, finalement, je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça, mais ça a été assez chamboulant. Et vraiment, j'étais en mode, quel type de pensée j'ai? Et je me suis dit, mais vu que je suis coach mindset, vu que c'est mon métier, bah finalement, qu'est-ce que je vaux en vrai en termes de mindset? Où j'en suis actuellement? Et là, c'est vraiment l'opportunité d'une expérience de faire face à toi-même. J'ai adoré le post que j'ai mis juste avant de partir parce que franchement, mais c'est totalement ça. Il y a des gens qui partent en vacances pour échapper à leur quotidien. Et donc, pendant leurs vacances, c'est génial et voilà. Et quand ils reviennent, en fait, rien n'a changé. Et ben là, en fait, moi, je suis partie 10 jours pour affronter justement mes pensées, pour m'affronter, mais vraiment de face à face à qui je suis réellement, quelles sont mes réelles pensées et à quoi je pense le plus, qu'est-ce qui me préoccupe, qu'est-ce qui me tracasse. Et finalement, en fait, en vrai de vrai, j'ai quel état d'esprit, moi? Et ça, c'était hyper challengeant parce que j'avais trop peur, comme je suis une personne hyper dans l'action, finalement, comme je suis dans l'action, de me mentir à moi-même et de ne pas savoir qu'en fait, j'ai plein de pensées de merde ou des trucs comme ça. J'avais un peu ce truc. Bon, pas du tout, ça va, j'ai bien un super mindset, finalement, bon, ça évolue toujours, mais je veux dire, je me suis rendu compte que j'avais un sacré mindset parce que le type de pensée que j'ai eu, c'était vraiment des petites pensées de merde. J'ai eu aucune pensée horrible. J'ai eu que des petits trucs, mais alors vraiment qui me tracassaient, mais j'en avais pas forcément conscience. Donc c'était vachement intéressant de les entendre parce que bah là, j'avais le temps, vu que j'avais rien d'autre pour me rajouter des nouvelles pensées. J'avais que mes dernières pensées, entre guillemets, qui revenaient et que j'avais pas à corriger. Par contre, j'ai un truc à te raconter à la fin qui était quand même what the fuck, un truc qui m'est remonté et qui est sorti de nulle part. Et ça, c'était assez impressionnant. En fait, cette technique, au fur et à mesure des jours, ils t'apprennent. La technique Vipassana. Donc ça commence, on va dire, facilement, même si c'est ultra dur, parce qu'en fait, tu médites 10 heures par jour. 10 heures par jour. J'ai médité 100 heures en 10 jours. C'est même pas ce que j'ai médité, je pense, en 3 ans. Donc hyper hardcore. Et en plus de ça, méditation, moi je m'attendais, je sais pas, à avoir la méditation guidée ou autre, vu que je m'étais absolument pas préparée à la technique. Et non, c'est méditation silence. Genre, je suis assise, donc c'est des enchaînements de cours de 1 heure à 2 heures qui s'enchaînent pour arriver à 10 heures de méditation par jour. Donc il y avait des petites pauses par-ci, par-là. Mais des fois, on enchaînait 4 heures de méditation avec 5 heures, avec 2 fois 5 minutes de pause entre, ce qui est quand même énorme. Et franchement, le premier jour, il a été ultra challengeant parce que, ben, en fait, perso et tout le monde n'est pas habitué à rester en tailleur dans la même position pendant 1 heure sans bouger. Enfin, j'arrêtais pas de gesticuler dans tous les sens. Déjà parce que c'était hyper dur pour me concentrer mentalement. Je me suis rendu compte avec ce stage. Je pensais que j'avais un focus. Je pensais que je savais que j'avais quand même une bonne concentration. Mais en fait, pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que. J'avais tellement, je dis vraiment j'avais tellement de sources de distraction en amont, avant de partir, qu'en fait ça m'a tellement perturbée dans mon focus, dans ma concentration, mais c'est incroyable, parce que là j'avais vraiment du mal à me concentrer, et en fait, comment je m'en suis rendu compte? Parce que dans ces moments-là, ben, si j'étais chez moi, qu'est-ce que j'aurais fait au moment où c'était inconfortable? J'aurais été manger un truc sucré, j'aurais ouvert ma télé, j'aurais pris mon téléphone pour scroller, j'aurais fui en fait. Et la meilleure manière dans son quotidien de fuir l'inconfort, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, c'est d'avoir accès au plaisir immédiat. C'est pour cette raison que dans ce stage, il n'y a aucun accès au plaisir immédiat. C'est ultra disciplinaire. Ça te demande vraiment de la persévérance, du courage, de la détermination, de la discipline et une grosse force mentale, parce qu'en fait, tu ne peux pas fuir à l'inconfort. Enfin, si tu peux fuir en n'allant pas au cours. Il y en a plein, 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 je pense 50 à 70% des personnes qui n'ont absolument pas suivi les 10 heures par jour et qui ont été quand ils en avaient envie. Mais moi, je m'étais dit, je viens pas faire un stage pour y aller quand j'ai envie. Si je veux des résultats, je dois le faire à 100%, si je veux 100% de résultats, entre guillemets. Et il était hors de question pour moi, peu importe les douleurs, l'inconfort ou autre, de comment on dit? Mince, j'ai oublié mon mot. De oh, j'ai oublié mince. Ah, j'ai retrouvé. Il était interdit pour moi de céder à ma moindre excuse et j'en ai eu plein, vraiment j'en ai eu plein. Ouais, va te reposer, t'es fatigué, t'imagines, tu te réveilles à 4h du matin, tu tapes 10 heures de méditation par jour, c'est enfin des fois tu t'es dans des états de somnolence et en fait, Vipassana, tu dois absolument lutter contre la somnolence. Donc tu as des techniques pour revenir dans l'instant présent, enfin vraiment, j'avais qu'une envie des fois, c'était de sortir, c'était horrible. Je n'ai ouvert les yeux à aucun moment. À chaque fois, je me suis promis. Même si au pire, tu gesticules dans tous les sens et tu galères à te reconcentrer ou autre, tu fermes les yeux, tu restes présente. Et je n'ai jamais, jamais, jamais réouvert les yeux pendant une séance de méditation. Et franchement, c'est hyper difficile. C'est-à-dire que j'avais les yeux fermés 10 heures par jour, en plus du sommeil. Donc vraiment, c'était très, très, très compliqué. Je me suis dit, au moins, il y a un super avantage. Mes yeux vont être super hydratés et ils ne seront pas déshydratés par les écrans parce que là, en les laissant fermés, on est good. Par contre, du coup, bah forcément, ça m'a demandé un effort, mais très, très challengeant parce que non seulement tu médites, en plus, tu appliques une technique qui est quand même complexe, mais vraiment qui te demande beaucoup de bienveillance et de lâcher prise. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, pour moi, c'était hyper important de bien réussir les choses. Et c'est ce qu'ils t'apprennent dans Vipassana, que rien n'est acquis, tout bouge, tout change. Bon, je le savais déjà, mais le vivre sous forme de méditation, j'ai trouvé ça hyper différent. Et en fait, c'était ultra challengeant pour moi les moments où je n'arrivais pas du tout à appliquer la technique parce que j'étais un peu fatiguée, parce que j'avais faim, parce que ça me saoulait vraiment, ça me gavait. Et du coup, c'était hyper inconfortable parce qu'en fait, le pire du pire, c'est que quand t'es dans des moments down comme ça, où t'as des doutes, t'as des remises en question, t'as aussi un peu de peur, tu te demandes pourquoi t'es là, et c'est hyper inconfortable, enfin, tu te sens pas bien, t'arrêtes pas de bouger dans tous les sens et tout ça, ben en fait, t'es dans un cercle vicieux, et en fait, ça s'envenime et ça s'amplifie, et c'est génial parce que d'un autre côté, cette technique, elle te permet justement de couper ce genre de cercle vicieux, et de revenir sur le maintenant, et de gérer vraiment, mais au plus profond de toi, la manière dont tu gères tes émotions et tout ça, donc c'était vachement intéressant. Mais qu'est-ce que j'ai subi? Vraiment, qu'est-ce que j'ai subi? Parce que ça demande vraiment beaucoup de persévérance et de détermination. En fait, tous les jours, tu avais des panneaux qui étaient affichés avec un peu l'ordre du jour et ce qui allait se passer et ce dont tu allais avoir besoin. Et à un moment donné, il y a un panneau qui est resté très longtemps et franchement, il est resté beaucoup dans ma tête, celui-là. C'était Strong Determination. Et franchement, ce mot-là, il revenait dans ma tête à chaque fois que j'avais des excuses ou autre. Je repensais, c'est normal, il faut être déterminé, 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 déterminé. Et si t'as pas un minimum de détermination et de force mentale, franchement, tu vas subir, mais d'une puissance. Et encore, parce que là, j'ai subi, mais j'avais des bonnes pensées et j'avais franchement, ça allait. Mais j'imagine même pas quelqu'un qui est pas très stable mentalement ou qui a des pensées de merde ou qui a un état mental avec un niveau de conscience pas très élevé. J'imagine même pas la personne à quel point elle doit subir. Donc, je peux comprendre toutes les personnes qui faisaient des siestes ou qui coupaient un peu ou qui suivaient pas tous les cours. Je peux le comprendre. Mais moi, c'était vraiment pas mon but. Je m'étais dit, mais en fait, c'est ça la discipline. Et la discipline, c'est faire les choses même quand tu n'en as pas envie. Et en fait, là, j'avais une super raison de le faire parce que je n'avais aucune source de plaisir immédiat possible, donc je me suis dit, mais dans les moments, et c'est génial parce que je m'appliquais à moi ce que j'appliquais à mes clients, dans les moments où tu es face à des doutes, à des excuses, et que tu es dans des moments d'inconfort, où tu n'as qu'une envie, c'est de fuir, et tu as envie de confort tout de suite, la meilleure chose à se demander, et vraiment moi c'est ce qui m'a aidée de ouf dans ces moments-là où j'étais là en train de chercher des excuses pour fuir, c'était, mais qu'est-ce qui me rendrait fière de moi? Est-ce que c'est de partir là et d'aller faire une sieste? Est-ce que c'est machin, machin, machin? Absolument pas. Et en fait, ça me refocus sur le moment et ça, c'est vachement intéressant parce que ça permet vraiment de recalibrer ton inconfort mental et de revenir sur ben, ce que revenir sur cette détermination, tu vois. Et bref, pour parler un peu plus de la technique, j'étais hyper surprise par les effets que cette méditation m'a apporté, pardon, pendant. En fait, j'ai ressenti énormément de choses. Ça t'apprend à te détacher de ton mental, donc de tes pensées, parce que ben, on pense très 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 souvent, et en fait, ça t'apprend à ne plus penser et à être connectée à l'instant présent. Alors j'avais la sensation avant le stage d'être déjà dans l'instant présent à certains moments. En fait, pas du tout. J'y étais, mais en surface. Vraiment, là, ce que j'ai vécu pendant 10 jours, je peux le dire, vraiment. Mais j'étais entièrement dans le moment présent. Et c'est incroyable les effets, en fait. J'avais la sensation de l'être, mais c'est impossible, en fait, avec le rythme de vie que j'avais, les sources de distraction que j'avais, les idées, les pensées que j'avais. J'en approchais, franchement, j'y ai approché en vrai, mais j'y étais pas. Vraiment, j'y étais pas. Et pourtant, j'étais persuadée, tu vois. Mais là, en le vivant et en appliquant cette technique qui t'apprend à le faire, en plus de ça, 10 heures par jour, je peux te dire que je suis rodée, vraiment. Et ben, ça m'a apporté des effets assez incroyables parce qu'en fait, ils t'apprennent. Je te spoile pas trop quand même parce que après, il y a le site internet, tout ça, et puis je n'ai pas envie de trop t'expliquer de la technique, mais en gros, on t'apprend à te détacher de ton mental pour aller voir comment tu te sens si tu fais le vide avec tout, toutes les sources de distraction, toutes tes pensées parasites, parce que les pensées, finalement, c'est des parasites. Comment tu te sens réellement à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et quand tu mets beaucoup plus de conscience, c'est-à-dire que on est tellement dans un monde où on est toujours en train de faire. On s'arrête pas à un moment donné pour se poser et se dire ok, je me sens, enfin il se passe quoi dans mon corps? C'est un peu comme quand tu vas chez le garagiste parce que ta voiture elle a un problème, il va pas regarder la carrosserie, il va soulever le capot, il va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ben j'adore cette image parce que là c'était vraiment cette occasion là, c'est d'aller voir ok, en vrai de vrai, bam, il se passe quoi dans ma carrosserie en fait, enfin à l'intérieur, dans tout ce qui est moteur machin, tout ça, on en est où et comment est mon corps en ce moment et tout ça. Donc c'était un peu abstrait au début. Peut-être que tu captes pas trop ce que je suis en train de te dire. Intellectualise pas. Je pense que vraiment pour le comprendre, il faut le vivre parce que c'est vraiment assez incroyable. Et donc on t'apprend vraiment à aller décupler tes sens pour ben, mettre beaucoup plus de conscience sur ce qui se passe dans ton corps, sur ce qui se passe dans ta tête et finalement dans ton esprit. Je savais qu'il y avait un lien entre l'esprit et le corps. Je le savais. Et quand on dit je le sais, en fait, tu es en train d'intellectualiser. T'es pas en train de l'incarner ou t'es pas en train d'en avoir conscience et de le ressentir profondément. Et donc là, j'ai eu l'occasion pendant ces 10 jours vraiment d'incarner et de ressentir ce que c'est ce lien entre le corps et l'esprit et que tout est associé, tout est lié, rien n'est dissocié. Et en fait, ça a été ultra déstabilisant pour moi parce que j'ai commencé à avoir des énormes douleurs. Au bout du 4e jour, donc en fait les 3 premiers jours, c'est les bases des bases de la technique, donc ça va, on t'apprend un peu tout ça, et ensuite on rentre dans le vif du sujet où vraiment on va aller chercher à l'intérieur ce qui se passe. Et en fait, au bout du 4e jour, j'ai commencé à avoir des douleurs insoutenables qui m'empêchaient même jusqu'à dormir la nuit, donc je dormais 2 heures par nuit, parfois 3 heures, enfin vraiment des toutes petites nuits, mais je suivais quand même tous les cours, donc du coup des fois j'avais des moments de somnolence, c'était hyper, enfin ça rendait encore plus inconfortable mon expérience. Et j'avais des douleurs qui ont monté au fur et à mesure des jours. J'avais vraiment l'impression d'avoir un ulcère à l'estomac, mais c'était d'une puissance. En plus, je me suis tapé une infection urinaire en même temps. Enfin, vraiment, ça plus ça, en appliquant cette technique et en vivant cette expérience ultra inconfortable, c'était le combo de l'inconfort et d'une puissance. Enfin, je peux te dire, j'en ai ressenti des sensations, mais alors vraiment très très fort. Et ça a été très très compliqué parce que comme tu mets de la conscience sur ton esprit et sur ton corps, et ben en fait ça faisait grossir mes douleurs. Vraiment, la technique faisait grossir mes douleurs et du coup ça faisait grossir mes pensées d'inquiétude et qui me rabaissaient un petit peu en mode mais du coup je vais jamais y arriver, mais du coup je vais devoir partir. Enfin imagine, j'ai un problème de santé, et ma santé elle passe avant tout. Enfin tu vois, il y avait tout ce discours et franchement ça a été le discours que j'ai eu le plus pendant le challenge. C'était vraiment un discours qui était centré finalement sur mon état actuel du présent. J'ai eu d'autres petites pensées, mais c'était des trucs vraiment, vraiment tout pourris, tu vois, des petits trucs, rien de folichon, et à chaque fois ça partait, ça revenait, sous d'autres formes et d'autres choses, mais en tout cas c'était rien de grave ou d'alarmant. Enfin, c'était des trucs que, en vrai, alors il y a des trucs que je savais pas trop, mais finalement quand je les ai entendus, si je peux dire ça comme ça dans ma tête, ben où j'ai capté, mais rien de, voilà. Mais là, à partir du moment où j'ai commencé à ressentir des douleurs, et qu'en plus de ça, la technique les amplifiait, parce que comme on t'apprend à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, bah forcément, quand tu ressens des choses qui sont douloureuses, qui sont solides, qui sont, tu vois, qui brûlent, et ben comme tu mets ton focus dessus, forcément, ça augmente. Et donc du coup, j'étais dans un cercle vicieux, et ça vraiment, ça m'a fait subir de ouf. C'est pour ça que j'ai dit que c'était la pire de mes expériences, parce que vraiment, j'ai ressenti des choses, mais c'était horrible, parce que je me demandais si j'allais pouvoir continuer le stage. Enfin, j'étais très triste, et franchement, le jour le plus dur pour moi, c'était le 4e jour, le moment où mes douleurs ont commencé à venir. J'arrivais pas à appliquer la technique. C'était vraiment impossible pour moi. C'était beaucoup trop riche en termes émotionnels. Ça me challengeait de ouf mentalement. En plus, tu n'as aucune source. C'est ça qui était vachement intéressant, parce que habituellement, quand ça va pas dans ton quotidien, tu vas utiliser l'extérieur pour t'aider à aller un peu mieux. Donc finalement, tu vas échapper à ce qui se passe là maintenant en utilisant l'extérieur pour évader, pour te changer les idées. Mais t'es pas en train de les résoudre. Et en fait, dans mon quotidien, on va dire en amont, quand ça allait pas trop, j'écrivais, ou j'allais sortir prendre l'air, ou j'allais au sport, ou je pouvais manger un truc sucré parce que bah, sur le moment, ça m'aidait. Enfin voilà, c'est quelque chose que je faisais. Et en fait, là, comme tu n'as aucune source de distraction extérieure, aucune source de plaisir immédiat qui vient de l'extérieur, tu n'as que toi-même, ben tu n'as que toi-même pour t'aider dans les moments les plus down. Et c'était tellement intéressant de voir comment je gère en fait vraiment, parce que là je ne peux pas aller au sport pour m'évader et pour me vider la tête. Je peux pas, tu vois, c'est ça cette expression, c'est se vider la tête, mais c'est pas résoudre en fait ce qui se passe sur le moment. Et ce problème-là, c'est que quand tu es trop habitué à utiliser l'extérieur, que ça soit le sport, la nourriture, aller voir tes potes, peu importe, mais quand tu es trop habitué à utiliser l'extérieur pour résoudre un problème que tu es en train de vivre, pour résoudre des pensées qui sont difficiles, pour résoudre des émotions que tu vis difficilement sur le moment, en fait, ça veut dire que tu sais pas les gérer parce que tu es obligé d'utiliser l'extérieur. Donc quand tu enlèves l'extérieur, comment tu fais du coup? Quand tu es là, tu te sens mal, mais tu ne peux pas résoudre autrement les choses que soit les subir et donc ruminer, 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 ou soit les affronter et les gérer maintenant. Et ça a été hyper inconfortable au début, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais habituée à utiliser l'extérieur, que ça soit le sport ou autre. Et du coup, là, comme j'étais livrée à moi-même, comme j'étais face à moi-même et qu'il n'y avait que moi et moi-même pour m'aider, donc je devais savoir switcher de pensée toute seule sans m'aider d'écriture, sans m'aider d'autres choses, je devais savoir me rassurer toute seule, je devais savoir me suffire à moi-même en fait. Et ça a été ultra challengeant au début, parce que c'est pas quelque chose d'habituel. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de normal. Je savais le faire de temps en temps dans mon quotidien, mais là, c'était tellement confrontant, tellement fort, tellement puissant, que ça m'a demandé énormément de force. Et je me souviens, j'ai une larme qui a coulé tellement qu'à un moment donné, j'étais vénère de ce que j'étais en train de vivre, en fait. Et franchement, je pleure pas facilement, et j'ai du mal, entre guillemets, à avoir des émotions qui sont fortes, on va dire. J'ai des émotions, mais qui sont, on va dire, assez platoniques. Parce que bah, aujourd'hui, j'arrive mieux à les gérer, donc du coup, j'ai moins des up and down par rapport à certaines personnes. Mais là, du coup, mes émotions, elles étaient décuplées, et c'était assez impressionnant, parce que comme j'en ai pas l'habitude et qu'en plus, j'ai pas l'habitude de les gérer de cette manière, bah, c'était très, 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 très challengeant. Et en plus, comme je pouvais pas dormir la nuit tellement que j'avais mal, je ne pouvais pas me reposer. Donc, c'était très compliqué. Ça a été compliqué du 4e jour au, franchement, 7e à 8e jour. Ça a été vraiment long. Je pense que j'ai passé les jours les plus longs de ma vie, parce que certes, j'étais dans le moment présent, mais alors être dans le moment présent quand t'es dans l'inconfort, je peux te dire que les jours, les heures, les minutes, ça devient des mois, des années, des siècles. Vraiment, je comptais les jours, je comptais les jours qui me, les cours qui me restaient par jour. Je comptais. Enfin, vraiment, c'était. Enfin, à ce moment-là, c'était très challengeant, et en plus, ça faisait pire que mieux. Vraiment, j'étais pas du tout en mode optimiste dans les moments où j'étais dans l'inconfort. J'étais en mode sortez-moi d'ici, j'ai la sensation d'être dans une prison, j'ai envie de retrouver mon confort, j'ai envie de retrouver mes habitudes. En fait, finalement, j'aime trop le plaisir immédiat, j'aime trop les trucs. Enfin, c'est normal, hein, c'est des phases que tu vis quand tu es dans l'inconfort et que tu es en train de détoxiquer ton esprit à toutes ces habitudes, finalement, un peu addictive au plaisir immédiat, addictive au confort. Bon, là, on est dans de l'inconfort extrême, hein, donc on est d'accord, c'est normal de mal le vivre, et c'est normal de vivre ce genre d'émotion, parce qu'on est quand même poussé vraiment à l'extrême. Mais c'était vachement intéressant de voir de quelle manière je gère, en fait, dans quel état je suis, enfin, quel est mon niveau d'intelligence émotionnelle. Donc les premiers jours, c'était très dur parce que j'avais pas l'habitude de gérer les choses de cette manière-là, donc c'était vachement intéressant. Et plus ça avançait, au début ma douleur montait. Et en fait, les derniers jours du protocole, ma douleur, elle a commencé à diminuer. Et paradoxalement, j'arrivais à mieux gérer la technique, j'arrivais à mieux l'appliquer, j'arrivais... Au début, je l'ai intellectualisé, et ensuite j'ai lâché prise, et j'ai réussi à appliquer, à l'incarner. Et paradoxalement, j'ai mes douleurs qui ont diminué, et je me dormais mieux. Et alors qu'il s'est passé pas beaucoup de jours, hein. Alors j'avais encore des douleurs, mais j'arrivais en fait à les diminuer grâce à la méditation, et à bien les gérer, voire à les faire disparaître pendant les temps de méditation. Donc c'était assez ouf, très déstabilisant, très bizarre, parce que ça vient vraiment mettre des mots sur ce lien entre le corps et l'esprit. Et c'était assez bizarre de faire l'effet inverse, parce que donc, lien corps et esprit, ça veut dire que quand tu as des troubles au niveau de ton corps, c'est dû à ton esprit. On va dire, je résume, hein, je ferai un autre podcast là-dessus, parce que sinon, je pense que le truc, il va durer 3 heures. Et en fait, c'était intéressant là, de le faire dans le sens inverse et de se dire, ok, donc ton esprit peut générer des douleurs, mais ton esprit peut aussi effacer les douleurs. Il peut aussi, tu vois, il peut les donner comme les enlever. Et c'était vachement, vachement intéressant de le vivre au-delà de la théorie. Ce que j'ai vachement apprécié aussi, je rebondis en même temps là-dessus, c'est que vraiment, je me suis retrouvée dans la manière dont c'était fait, parce que je parle beaucoup de... dans tout ce que je propose, de concret, 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 pas beaucoup de théorie. J'aime pas parler, parler pour que finalement, enfin tu vois, donner des conseils. Enfin, ça y est, il y a assez de livres, il y a assez de contenu sur YouTube, ce que tu veux pour de la théorie. La théorie n'a jamais changé les gens, des gens, pardon. C'est la pratique qui le change. Et ce que j'ai adoré dans ce stage, c'est que c'est 90% de pratique et 10% de théorie. Voire même 95% de pratique et 5% de théorie. Et en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux pour une évolution certaine. Et c'est ce que j'applique aussi dans le challenge, dans Mindset... Enfin, même pas dans Mindset Aventure, il n'y a pas de théorie. Mais c'est ce que j'applique dans le challenge. Parce que pareil, ça se passe sous forme de process pendant 21 jours. C'est un process que j'ai créé, que tout le monde vit, que tout le monde suit. Et en fait, donc on va dire que ça, c'est la partie théorie. Mais si tu ne l'appliques pas, ça ne sert strictement à rien. C'est comme si tu lis, mais derrière, il n'y a rien qui change. Et s'il y a autant de résultats dans le challenge, c'est parce que les gens passent 90% du temps du challenge à appliquer et 5% du temps, allez, on va dire 10% du temps à lire, entre guillemets, ce que je donne à faire. C'est exactement ce que j'ai vécu pendant ce stage. Il y avait 5% de théorie qui était intéressante et qui permet aussi de mettre du lien, du concret sur ce que tu es en train de vivre. Mais 95%, c'est de la pratique et c'est ce qui donne autant de résultats. Si j'avais fait un séminaire sur de la méditation vipassana, où on t'explique ce que c'est, machin, machin, et il y a 50% de pratique, ou 40% de pratique, ou 30%, il n'y aurait pas du tout eu la même chose, parce qu'en fait, on aurait nourri l'esprit, avec, en fait, ça aurait distrait l'esprit, et t'aurais augmenté, entre guillemets, comment je pourrais dire, ton savoir intellectuel, mais il ne faut pas oublier le savoir-faire. Le savoir-faire, dedans, il y a le faire aussi, et si tu ne pratiques pas, ça n'a absolument aucune valeur, ça n'a aucun intérêt. Regarde, par exemple, avant, je savais très bien méditer en méditation guidée, machin, machin, et pour autant, je ne pratiquais pas, donc finalement, ça n'a aucune valeur. Et bien là, c'est exactement la même chose, et ça, c'était vachement intéressant, parce que ça permettait, donc c'est important d'avoir un peu de théorie quand même, pour pouvoir avoir une sorte de cadre dans ce que tu es en train de faire, une ligne directrice, un fil rouge. Mais par contre, c'est important d'avoir énormément de temps de pratique pour venir réajuster, réadapter et en fait de pouvoir évoluer aussi. Et ça, ça a été, je trouve, incroyable et ça m'a permis aussi de me rassurer sur ce que je proposais en termes de coaching. Alors, je n'ai pas besoin de me rassurer, mais je veux dire de le vivre. Moi aussi, ce que je propose à mes clients, bah, ça me permet aussi de me dire, ok, comment je peux améliorer les choses pour apporter encore plus de résultats et pour favoriser le résultat auprès de mes clients. Et ça, c'est ce qui est important aussi parce que donc on était 130 personnes, il y avait environ une soixantaine de femmes et une soixantaine d'hommes. Les hommes et les femmes sont séparés pour des raisons de distraction, de tout ce qui est sexe et tout ça, parce que tu peux avoir des pensées en tout genre et le sexe fait partie du plaisir immédiat, donc ce n'est pas le but. Et ça, c'était assez cool. Finalement, je me demandais un peu comment ça allait se passer. J'avais un peu des préjugés là-dessus, en mode, oh, les femmes et les hommes séparés, un peu chelou et tout. Pas du tout, en fait, j'ai grave compris en le vivant le pourquoi du comment. Je trouvais ça vachement important d'être, entre guillemets, entre genres, si je peux dire ça comme ça, parce que ça a vraiment un impact sur l'esprit à ce moment-là, et ça permet d'avoir une source de distraction en moins. Et ça, c'était vachement intéressant. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que donc on était 130 personnes. Et ce qui est vachement important, c'est qu'on avait tous le même protocole, tous le même process, tous le même cadre à suivre. Et il y a autant de personnes qui ont eu de résultats différents. C'est pour ça, là, je te parle de mon résultat, je te parle de ma manière d'avoir vécu l'expérience. Sache une chose, c'est pas parce que je l'ai vécu de cette manière que toi, si tu le fais, tu vas le vivre de cette manière. Absolument pas, je te garantis que ça va être différent. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des prérequis avant de partir dans cette expérience. Ça va être ton niveau de conscience avant de partir. Est-ce que tu es quelqu'un qui est ignorant de ton état intérieur ou est-ce que tu es quelqu'un de très conscient de quel type de pensée tu as, de quel type d'émotion tu as, de qui tu es et tout ça? Ça va vraiment impacter ton résultat. Ton niveau de discipline dans ta vie, ton niveau d'addiction au plaisir immédiat, ton niveau de confort et d'inconfort dans ta vie, ça va venir impacter ton expérience, tes expériences passées, les choses, les boulets que tu traînes et que tu n'as pas corrigés vont venir impacter ton expérience. Donc vraiment, moi, j'ai vécu une expérience en fonction de mon mindset, mon intelligence émotionnelle, mes expériences passées, ma force mentale et tout ça. Mais on en a tous une qui est différente selon chacun, selon sa personnalité aussi. Donc sache vraiment une chose, c'est pas parce que moi je l'ai vécu de cette manière que d'autres, enfin qu'on le vit forcément de cette manière. Il y a une chose que tu vas vivre, ça c'est sûr, c'est tu vas apprendre à voir les choses telles qu'elles sont. Tu vas apprendre à mettre de la conscience sur ton corps. Tu vas apprendre à mettre du lien entre ton corps et ton esprit et tout ça c'est sûr. Mais la manière dont tu vas le vivre, est-ce que ça va t'apporter, c'est propre à toi. Et ça m'a fait vraiment une grosse prise de conscience. Parce que je captais pas trop, tu vois, sur le challenge 21 jours, donc pareil, c'est il y a un seul fil rouge, un seul protocole pour tout le monde, et il y a plein de personnes qui le vivent, entre 10 et 20 personnes par session. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même dingue, parce que tout le monde a le même protocole, mais les résultats sont tellement différents. Enfin, je m'attendais à un peu de similarité, et absolument pas, le résultat est vraiment différent. Et ce qui joue aussi, c'est ton implication. Si tu fais les choses à 10%, à 20%, à 30%, tu ne peux pas espérer avoir 100% de résultats. Vraiment, les résultats de ce que tu fais dépendent de ton niveau d'implication, d'engagement dans ce que tu fais. Si tu n'es pas discipliné et déterminé à avoir 100% de résultats, tu n'auras pas 100% de résultats. Tu n'auras que le pourcentage de résultats pour lequel tu t'es investi. Et ça, c'est vachement important parce que c'est pour ça que je ne promets pas de résultats dans ce que je propose, parce qu'il dépend vraiment de ton implication. Je peux pas te dire bah tu vas forcément avoir plus confiance en toi. Enfin si, parce que mais je veux dire je peux pas te promettre quelque chose de précis parce que c'est vraiment propre à chacun et ça dépend vraiment de ça et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je l'avais intellectualisé mais j'avais pas conscience à quel point c'est ouf. Tu mets tout le monde dans la même salle faire la même chose et en fait tu te retrouves avec autant de résultats que de personnes. Mais c'est incroyable parce que finalement les personnes elles vivent tous la même chose, c'est quand même assez dingue, mais ça montre vraiment qu'on est tous différents et que notre état d'esprit va vraiment conditionner énormément de choses. Donc j'en étais au fait de te dire que ça a été compliqué pour moi du 4e au 8e jour. Je comptais les jours, enfin bref, parce que j'étais vraiment en lutte et en application de cette technique qui me demandait beaucoup d'efforts, je vivais des up and down. En fait, dans la même journée, je pouvais vivre des moments extraordinaires parce que j'arrivais à appliquer la technique et c'était waouh en termes d'effets. Je ressentais plein d'effets dans mon corps. Enfin, j'arrivais à ressentir des choses que j'avais jamais ressenties. Et l'heure de méditation d'après, c'était l'enfer, le chaos total. J'avais des douleurs de malade, j'arrivais pas à l'appliquer, j'arrivais pas à me concentrer, j'étais concentrée sur les bruits de gargouilles dans la salle ou l'autre qui arrêtait pas de bouger dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment du coq à l'âne. Et du coup, bah, c'est intéressant parce qu'en même temps, ça fait partie du jeu. Ça t'apprend à lâcher prise sur le fait d'être attaché à quelque chose que tu prends pour acquis alors que rien n'est acquis et que tu dois accepter que tout bouge, tout change et que c'est pas parce que tu réussis quelque chose une fois que forcément tu vas tout le temps le réussir. Et que c'est important du coup de se détacher de ça. Et quand tu te détaches de ça, bah finalement tu t'en fous de rater parce que tu es focus uniquement sur le fait de de faire les choses, d'être là présentement et de le faire avec conscience. À partir du huitième jour, donc je t'ai dit, j'ai commencé à avoir moins de douleurs parce que j'ai commencé à arriver à lâcher prise et à mieux gérer mon état d'esprit et à avoir plus de bienveillance envers moi-même, à savoir bien gérer mes pensées, à switcher très 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 rapidement. Et surtout quand je t'ai parlé des downs que j'ai eus, ce qui est important de savoir, c'est que ça durait quelques minutes. Ça durait pas toute la journée, ça durait quelques minutes. Ça revenait peut-être une demi-heure après, quelques minutes, et une fois que je le gérais, bam, ça partait. Alors qu'il y a des gens, ça a duré parfois tout le stage, parfois quelques heures, parfois toute la journée, parfois quelques jours. Donc ça aussi, ça impacte beaucoup tes résultats et ta manière de le vivre. Mais c'était très déstabilisant de vivre plusieurs fois dans la journée ce genre d'état émotionnel, parce que c'est très fatigant du coup de passer à des discours complètement opposés. Mais du coup, ça me permettait de voir, ok, en fait, j'en suis où dans ma relation à l'échec, parce que bah, j'avais la sensation que j'étais au top du top. Bon, j'étais quand même très très bien, on va pas se mentir. Là, j'étais confrontée à une situation qui me permettait de vivre des extrêmes. Et du coup, ça m'a permis vraiment de renforcer ça et de savoir lâcher prise sur les émotions que je ressens tout de suite. Ça a été aussi très important. Ça m'a permis de ressentir mes émotions directement. C'est-à-dire, quand elles arrivent, je les ressens direct. Alors que des fois, comme tu es en train de faire des choses, tu as un peu un effet où tu sais, en fait, tu n'étais pas vraiment conscient dans ce qui se passe et du coup, tu ressens les émotions, mais une fois que la situation s'est terminée, et c'est là où tu commences à penser à la situation alors qu'elle est terminée. Et là, en fait, la manière dont je l'ai vécue, je ressentais les émotions à l'instant T. Et en fait, j'avais les pensées à l'instant T. Et du coup, j'arrivais à l'instant T à switcher en fait, et c'était vachement intéressant et très 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 puissant, et ça a amené un lâcher prise une expérience vraiment au niveau des émotions et du ressenti, des sensations assez incroyables et extraordinaires. Et c'était assez surprenant d'ailleurs, parce que c'est très rare que les gens arrivent à le faire sur l'instantané. Je savais le faire déjà très rapidement, mais instantanément c'était assez bluffant de waouh, tout switcher comme ça, et surtout de savoir finalement confronter tes pensées, te calmer toi-même avec rien d'autre que toi et ta tête, et pas d'écriture, et pas de lecture, et pas de rien du tout, pas de musique pour te motiver, changer d'état d'esprit, pas de... Et c'était vachement intéressant de voir, ok, en fait, je sais me suffire à moi-même, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de rien d'autre. Ça m'a fait pas mal de prises de conscience sur le après. Genre là, par exemple, j'ai plus du tout envie de lire, j'ai plus envie de regarder du contenu de dev perso et tout ça qui... Avant, je pouvais regarder pour m'inspirer et me développer mon état d'esprit, parce qu'en fait, je me rends compte que ça me biaise mes pensées et que ça m'enlève de mon focus pour me mettre des pensées extérieures dans ma tête. Et finalement, ça m'écarte un peu de qui je suis, de comment je sais faire, et ça m'attache à utiliser l'extérieur pour m'aider à être comme je veux être, alors qu'en fait, je me suffis à moi-même et que j'ai juste besoin de plus m'écouter. Et quand je dis plus m'écouter, c'est vraiment intérieurement, dans l'instant présent, et être à l'écoute de mes ressentis et être détaché des distractions. Mais bon, je te parlerai de l'après. Après. Donc, huitième jour, mes douleurs commencent à apparaître. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave. À disparaître, pardon. Et il s'est passé un truc assez ouf. Donc, jusqu'au huitième jour, du quatrième au huitième jour, j'ai super mal dormi. Je me réveillais toutes les nuits. En plus, toujours l'infection urinaire, mon ulcère. J'ai l'impression que tout mon corps, il brûlait. De ce côté-là, et vraiment, j'avais vraiment la sensation que j'avais un problème, à tel point que c'était très très compliqué. Mais au huitième jour, ça s'est calmé, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a montré que ben, en fait, je gérais super bien. Mais j'avais la sensation que c'était calmé parce que ben, les jours étaient passés, peut-être que j'avais mangé moins pimenté, enfin bref, à ce moment-là, j'étais en train de rationaliser. Et voilà cette nuit où donc j'appréhendais encore de moins bien dormir, mais comme je me sentais un peu mieux, je m'étais dit, bon, il y a moyen que je fasse une nuit complète de 5 heures, 5-6 heures, mais nuit complète quand même. Et en fait, c'est passé des trucs de ouf. J'avais peur un petit peu pendant le stage d'avoir des... Donc mon père est décédé, il s'est suicidé quand j'avais 21 ans. C'est devenu ma plus grande force, et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai décidé de devenir coach pour aider les gens à travailler leur état d'esprit, pour justement ne jamais en arriver là et savoir le gérer, s'autogérer et ne pas vivre des situations aussi problématiques et qui t'amènent à finalement te déprimer ou autre. C'est pour ça que j'en ai fait une passion et que c'est ma plus grande force. Et j'avais une petite inquiétude, pour être totalement transparente, de est-ce que finalement j'ai pas camouflé tout ça et est-ce que j'ai bien résolu ce deuil? Où j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je vais pas avoir des pensées horribles qui vont me revenir et en fait tout ça n'est que superflu et en vrai j'ai rien résolu? Enfin, j'avais une toute petite inquiétude là-dessus. Bon, je n'en étais pas persuadée, mais je m'étais dit c'est possible. C'est probable, parce que ben là, j'ai 10 jours où je ne vais que penser, où tout va remonter, où vraiment j'aurai le temps que mes pensées de merde, mes histoires de merde, mes expériences passées, peut-être des choses que j'ai vécues comme plus traumatisantes que d'autres ressortent. Donc j'appréhendais vraiment ça, j'en ai absolument pas eu. Jusqu'à ce soir-là, où en fait je dormais et j'ai fait un rêve hyper spécial. Donc j'ai rêvé de mon père, et ça faisait très longtemps, des années que j'en avais pas rêvé. Et c'était un rêve, c'était pas un cauchemar. Et en fait, ce rêve a fait ressortir quelque chose. C'était la dernière chose, mais j'avais carrément zappé. Vraiment, ça m'est venu comme ça, mais c'est incroyable. C'est pour ça que ça me fait sourire, parce que cette technique, elle est vraiment incroyable. Elle te fait ressortir des trucs qui s'étaient enfouis, mais t'es tellement habitué dans ton quotidien à faire plein de choses que tu prends pas le temps en fait d'aller fouiner. Ok, est-ce qu'il y a des choses que je traîne depuis longtemps, que je n'ai pas corrigées et qui aujourd'hui finalement peut-être me freinent dans mon évolution ou dans ce que je veux? Et bref, donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de rêve, que j'avais pas eu de pensée et tout ça par rapport au décès de mon père. Et en fait, ça a fait ressortir quelque chose qui en fait j'avais pas conscience. C'était l'une des dernières choses qui me restait. Et qui m'avait fait du mal. Donc mon père s'est suicidé et en fait à ce moment-là il partageait la garde avec ma mère. On le voyait une semaine sur deux et une semaine avant qu'il décède, il nous avait envoyé, enfin je lui avais envoyé un message pour lui demander si c'était possible qu'on se voie une prochaine fois parce que je voulais voir mes amis ce week-end-là. Et en fait je me souviens qu'à ce moment-là je m'en étais voulu de ouf. Forcément, si j'avais su, je l'aurais pas fait. C'est ce que je me répétais, je m'en voulais énormément. Je m'étais dit, mais punaise, t'as priorisé tes amis alors que c'était ton père le plus important. Vraiment, j'avais un amour inconditionnel pour mon père. C'était une personne, j'étais très proche de lui, c'était très fusionnel, je l'aimais énormément. Vraiment, vraiment, c'était un pilier pour moi dans ma vie. Et en fait, je m'en suis tellement voulu parce que bah, à ce moment-là, bon, j'avais pas du tout le même état d'esprit et tout ça, mais j'avais pas conscience que c'était quelque chose qui était resté. Ça a clairement disparu de ma tête. Et donc là, pour en revenir à ce rêve, tu vas comprendre, tu vas faire le lien. Donc j'étais en train de faire un rêve où j'étais au bord de la mer, en mode un peu comme si j'avais fait un city trip et que j'étais venue quelques jours. Je sais pas dire où c'était, mais bref, peu importe. Je crois qu'il y avait des phoques ou quoi. Enfin, c'était assez chelou. Il y avait une sorte de port et c'était très très clair. Hein, vraiment le rêve très 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 clair. Limite comme si j'avais eu une visualisation. J'étais vraiment en train de dormir. Et en fait, j'étais avec mon père. Il y avait une dame qui était là. J'ai l'impression que c'était ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée il y a quelques années. Et on parlait. Je sais plus trop exactement la conversation. Et en fait, je reçois un appel ou un message, je sais plus, d'une de mes meilleures potes. Anaïs, je sais que tu vas écouter ce podcast. Donc, tu te reconnaîtras parce que c'est de toi que j'ai rêvé à ce moment-là, où tu me proposais d'aller à un festival. C'était Lollapalooza. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien, mais tu me proposais d'aller à un festival, c'était ce soir-là, et j'étais avec mon père à ce moment-là, et je t'avais dit, écoute, je te remercie, c'est super gentil, mais j'ai envie de profiter de mon père. C'est important pour moi d'être avec lui, et je le vois pas souvent, enfin bref, je sais plus exactement tout ce que j'ai dit, mais c'était à peu près ça. Et bam, je me réveille, et déjà chelou. Pourquoi je rêve de ça? Trop bizarre. Et tout de suite, ce qui me vient, c'est ce souvenir que j'avais, ce souvenir de m'en vouloir, d'avoir priorisé à ce moment-là des amis qui finalement aujourd'hui en plus ne le sont plus, au profit de quelque chose auquel je ne reverrai plus jamais. Et ça a été très bizarre, parce qu'au moment où je me suis réveillée, je te partage vraiment tout avec vulnérabilité, hein, donc après tu prends ce que tu as envie de prendre et tout ça, mais c'est vraiment important parce que c'est ce qui a beaucoup impacté la suite. Et au moment où je me réveille, j'ai un flash. Donc comme une sorte de visualisation qui me vient d'un message que mon père avait envoyé. Donc mon père est décédé en début d'année, en janvier, dans les premiers jours. Et en fait, il nous avait envoyé un message de bonne année. Et en fait, j'ai eu un flash de ce début de message. Il avait écrit « Soyez heureuses, mes filles ». Et j'ai eu ce flash. Je voyais même l'encadré vert, tu sais, parce que c'était un iPhone et tout. mais comme si je l'avais devant moi, et j'ai commencé à pleurer, mais genre toutes les larmes de mon corps, mais c'était puissant, je ne savais pas m'arrêter. Je pense que j'ai pleuré au moins 20 minutes. J'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré parce que j'ai compris que j'étais vraiment heureuse et que je l'incarnais profondément et que ben, en fait j'avais réussi et à faire ce qui était le plus important pour lui. Et à ce moment-là, quand j'ai rêvé et que derrière j'ai vu ça, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et c'est comme si ça m'avait libérée d'un poids. Et accroche-toi bien parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai senti ma douleur s'en aller et je n'ai plus eu aucune douleur. J'ai dormi toutes les nuits d'après. Mais plus aucune douleur parce que j'en avais encore beaucoup à ce moment-là, vraiment. Donc trop bizarre, comme si en fait c'était là depuis le début et que j'avais du mal à mettre des mots dessus et que bah, en fait c'est ressorti de fou à ce moment-là. Et vraiment bizarre, enfin, j'arrivais pas à m'arrêter, je pleurais en sanglots, mais genre, mais c'était d'une puissance. J'étais vraiment, alors que je pleure vraiment pas facilement et encore moins de cette force et de cette puissance, mais je sentais que ça avait besoin de sortir. Et après, j'ai eu un smile de ouf parce que je pleurais en mode rassurée, contente, poids en moins. Enfin, vraiment bizarre comme sensation. Et même juste après, je me suis mis, c'est réel ce que je viens de vivre ou je me suis, enfin, je me suis fait des films, bah oui, parce que c'est ce que j'ai vu dans ma tête, mais trop bizarre. J'ai dû m'asseoir un peu et ralentir. En plus, il était 4h30 du matin. Enfin, du coup, c'était l'heure de la méditation. Enfin, vraiment bizarre. Et je me suis sentie dans une plénitude, mais incroyable. Et assez bluffant, vraiment assez bluffant. Je suis la seule à avoir vécu ce genre d'expérience pendant le stage. Après, il y a la majorité des gens qui n'ont pas suivi les 10 heures de méditation par jour et qui ont fait beaucoup de siestes et tout ça aussi. Donc peut-être que ça joue. Mais vraiment, c'était assez chelou parce que ça arrive au moment où j'arrive bien à appliquer, où j'ai un lâcher-prise, où j'arrive à écouter mon corps, où j'arrive à le calmer. Et en fait, finalement, où j'arrive à être à l'écoute, sans jugement, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et bam, c'est ressorti à ce moment-là. C'était assez très bizarre, très perturbant, très très what the fuck, un peu en mode c'est bizarre, c'est réel ou pas. Même le jour d'après, je me suis dit, mais est-ce que c'est un rêve là ce que j'ai fait intégralement ou est-ce que je me le suis imaginé ou enfin, tu vois, j'avais un peu du mal à mettre du concret là-dessus. Enfin, parce que j'essaie de le rationaliser finalement et ben non, parce que c'est mon esprit à ce moment-là qui a pris toute la place et qui m'a montré ce que j'avais besoin de régler. Et j'ai accepté de le régler et de le voir aussi. Et c'est ça, en fait, Vipassana, c'est voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et ça m'a retourné de ouf. Ça m'a beaucoup ému. Ça m'a. Enfin, vraiment, ça m'a bluffé. Déjà, ça m'a bluffé sur le côté ressenti émotionnel, de ressentir mon corps d'une puissance, enfin, des picotements partout dans mon corps. Parce qu'en fait, ton corps, finalement, c'est de l'énergie. Parce que tu as plein de. Enfin, tes neurones, tout ça, toutes les connexions neuronales, c'est que de l'électricité. Et du coup, ça t'apprend à ressentir toute cette énergie bah, qui circule en fait constamment dans ton corps, mais c'est abstrait, tu vois. Enfin, on n'a pas assez de conscience dans notre quotidien pour s'en rendre compte. On est tellement dans le faire, 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 vite, 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 que bah, à aucun moment tu t'assois et tu dis, tiens, je vais aller voir un peu comment se passe l'énergie de mon corps. C'est un peu chelou, tu vois. Et là, bah, tu as 10 jours pour le faire, donc t'inquiète pas que tu as le temps de voir ce qui se passe. Et c'était assez impressionnant vraiment de voir, mais en vrai, le corps, c'est de l'énergie, c'est de l'électricité, ça, c'est en mouvement constamment et c'est dingue. Tu sais, c'est un peu comme quand tu te coinces un nerf, tu as l'impression d'avoir des décharges électriques, mais c'est exactement ça en fait. Et c'était assez dingue de le vivre parce que j'avais vu des posts sur Insta, machin, où je trouvais un peu perché, je t'avoue, j'avais un peu de jugement pour tous ces trucs-là. Parce qu'en fait, tant que tu ne le vis pas et que tu le ressens pas, tu peux pas comprendre parce qu'en fait, tu vas intellectualiser. Et à partir du moment où tu intellectualises, t'es pas en train de travailler avec la partie de toi qui est ouverte et qui est en mode développement, tu es en train de travailler avec ton ego qui essaye de mettre des choses dans des cases et qui finalement est complètement détaché de ce qui se passe et complètement ignorant de ce qui se passe. Et du coup, tu es un peu fermé d'esprit à ce moment-là, ce qui était exactement le cas pour moi. Autre chose qui s'est passée, il s'est passé des choses. Hein. Bon, ça fait déjà 1h04. Bon, je pense que ça sera l'un de mes podcasts les plus longs, mais c'est vachement intéressant parce que j'ai envie de tout dire. Je pense que j'en ferai un deuxième où j'expliquerai le après en mode qu'est-ce qui se passe les semaines d'après et les mois d'après le stage, parce que là, je sens qu'il y a des choses qui bougent encore, donc je te partagerai quand même. Mais je pense que je ferai encore un autre truc en plus parce qu'il y a plein de trucs qui bougent. J'ai commencé. Aux trois, en fait, le premier et deuxième jour, c'était difficile. Et troisième jour, j'ai eu des illuminations, mais genre des idées incroyables pour mon coaching. Et ça, c'est ce que j'attendais aussi. Je voulais travailler ma clarté d'esprit. Ça, c'est un des buts de Vipassana, c'est de développer la clarté de ton esprit. Forcément, vu que tu vas nettoyer, comme ils disent, les toiles d'araignée dans ton mental, ben, ça devient beaucoup plus clair. Et du coup, ben, tu as plus d'espace pour tout ce qui est créativité, inspiration et tout. Donc au troisième jour, trop contente, j'ai une idée mais claire comme de l'eau de roche, de roche. C'est assez impressionnant parce que avant de partir en stage, j'avais une croyance et c'était réel parce que dans le concret, c'est comme ça que je le vivais. Je n'arrivais pas à visualiser, mais genre, tu sais, les techniques de visualisation où tu fermes les yeux et tu essaies de te projeter et d'avoir des images, impossible pour moi. Vraiment, je n'arrivais pas, parce que là, ça a complètement switché, mais c'est impressionnant. Donc, je n'arrivais pas à voir les choses, à me projeter, à rendre ça visuel, en fait, à donner une image mentale à mon cerveau, c'était impossible. Ou alors, c'était vraiment des petits trucs, mais alors, plus flou, tu meurs, tu vois. Et là, le troisième jour, j'ai une idée, mais genre, j'ai un visuel, comme si j'étais en train de rêver. J'ai tout, mais alors j'ai toute l'image comme si je voyais le film devant moi, tu vois, de ma prochaine offre, parce qu'il y a une offre que je veux créer depuis janvier et ça bloque parce que ça manque de fluidité, il y a des choses qui ne me vont pas et tout ça, et j'arrivais pas à la clarifier. Et ben là, t'inquiète que c'est clair, mais alors c'est arrivé clair, genre tarif, nombre de personnes, lieu, contexte, objectif, qui, j'ai même vu qui. Pouvait potentiellement le faire. Bon, ça, on verra si ça se fait ou pas, mais c'était vachement intéressant. Mais genre, je voyais tout comme si j'y étais, ce qui s'y passait, et incroyable, je me suis dit, mais en fait, c'est pas vrai, je sais visualiser, c'est juste que j'étais tellement polluée dans mon quotidien par énormément de sources de distraction que je n'arrivais pas, en fait, à avoir l'esprit clair parce qu'il était embrumé par toutes ces inspirations sur Insta, les livres, tout ce que les gens me racontent, enfin, tout l'extérieur finalement. Et du coup, ben là, vu que j'ai que moi et mes pensées, ben, j'ai de la place. Je laisse de l'espace. Et quand tu laisses de l'espace, t'as de la place pour les créativités et tout ça. Et encore, je m'étais mis des moments dans mes journées avant de partir, depuis juin, où je me calais une demi-heure, une heure par jour, où j'allais dans le parc, mais je prenais quand même mon cahier et un livre. Et ça m'aidait à m'inspirer, trouver des idées. Donc ça, c'était assez fort. C'est une de mes dernières choses qui se sont hyper développées. Mais là, le fait de le faire juste moi et moi-même, rien d'autre, pas de livre inspirant, pas d'écriture, ça c'était très challengeant parce que du coup j'ai eu énormément d'idées et je pouvais pas les écrire, j'avais trop peur de les oublier. Bon, t'inquiète pas, j'ai tout noté, tout est clair, j'ai rien oublié. Je pense que j'ai oublié des choses qui finalement n'étaient pas importantes, mais les trucs qui m'ont marqué le plus, ils sont bien notés en noir et blanc. Donc cette offre, elle va être incroyable. Je te spoil un petit peu, mais en gros. Moi, je me suis rendu compte que j'étais excellente et hyper forte dans tout ce qui est le fait, dans tout ce qui est faire vivre des expériences transformatrices et émotionnelles à mes clients. Et en fait, je suis hyper forte dans tout ce qui est concret. Et forcément, il y a de l'inconfort qui va avec. Donc, ça va être un mixte de Mindset Adventure, mon offre que j'ai créée en janvier, qui était à la base individuelle. Ça va être un mixte du challenge 21 jours et du stage Vipassana. Quand je dis un mixte, c'est un mixte du contexte, de la manière dont ça a été fait et des apprentissages, enfin vraiment un truc de malade. Donc voilà, je l'ai appelé Mindset Bootcamp. Ça sera une offre de groupe en réel entre 5 et 10 personnes. Je n'en dis pas plus, on verra pour la suite, ça sortira incessamment sous peu. Si ça, en tout cas, si c'est quelque chose qui t'intrigue ou qui t'intéresse, envoie-moi un petit message et je t'en parlerai avec plaisir. Mais du coup, j'étais hyper intriguée et wow, en mode, putain, mais en fait, je sais visualiser. C'est juste que j'avais l'esprit embrumé et du coup il n'y avait pas assez de place pour pouvoir laisser de l'espace à ça, donc assez ouf. Et c'est pour ça que le lendemain, comme j'avais pris ça pour acquis en mode ah bah ça y est et tout, j'ai déjà les effets, le lendemain gros down, parce qu'en fait pas du tout, j'ai plus d'idées du tout, je pense les 3 jours d'après, ou alors il y en a un qui sont venus mais vite fait par-ci par-là. Et ensuite donc 8e jour comme je t'ai raconté, ou 9e jour j'ai fait le rêve et tout ça, et en fait là pareil, j'ai re-eu des idées. Eu de la visualisation incroyable, enfin ça a été très très fort. Le 10e jour, là on a pu recommencer à reparler. C'était un peu bizarre d'être entouré de gens pendant 10 jours, de ne pas les connaître, de ne pas avoir pu leur parler, leur dire bonjour, enfin si vite fait au début, mais voilà. Et en plus de ça, parce que sinon c'est pas drôle, Il y avait très peu de Français, je pense qu'il devait y avoir 10 Français sur 130. Donc c'est-à-dire que tout le monde parlait anglais. Donc non seulement ça fait 10 jours que t'as pas parlé, en plus en sachant que tu parles comme une vache espagnole, tu vas devoir reparler mais en anglais. C'était d'un complexe. J'ai chopé une migraine, un mal de crâne tellement qu'il y avait du bruit parce que t'es habitué pendant 10 jours à être dans le silence. Et là, pendant 10 jours, d'un seul coup, tu peux reparler et t'as du bruit et t'as des conversations et les gens ils parlent. Oh, franchement, ça a été waouh, un peu choquant, un peu bizarre. Tu sais, ça fait un peu, tu sais, personne se parle d'un seul coup. Salut, ça va? Tu t'appelles comment et tout. Enfin, c'était un peu chelou, mais c'était assez drôle. J'ai eu un peu du mal à reparler au début parce que, en fait, j'étais bien dans le silence. Ça m'a apporté tellement de choses. Ça m'a. Vraiment, des fois, il y en a, ils parlent de retraite et tout, et ils créent des offres où tu fais plein de choses. Non, là, j'ai clairement vécu une vraie retraite parce que j'ai rien fait. Enfin, si, j'ai médité du coup, mais j'ai laissé en retraite mon esprit et il a pris une retraite là, et en fait, bien énorme. Enfin, je te conseille au moins une fois dans ta vie de refaire ce stage, de le faire tout court. Même si au pire, tu vas pas jusqu'au bout, c'est pas grave, sache qu'il y a beaucoup d'abandon parce que ça demande énormément de détermination et de discipline et de force intérieure, vraiment, mais que dans tous les cas, ça va t'apprendre quelque chose et le but, c'est de faire du mieux que tu peux, vraiment, mais dans tous les cas, ça va t'apporter quelque chose d'assez enrichissant. Vraiment, par contre, ce qui est important, c'est d'y aller sans attente et d'y aller vraiment pour l'expérience, parce que sinon, tu risques d'attendre quelque chose que tu ne sais même pas si tu vas être capable de vivre, parce que t'en sais rien, en fait, de ce qui va se passer. Moi, j'étais vraiment dans l'optique de mieux me comprendre, de m'apporter de la clarté d'esprit, parce que c'est le but de la technique, et d'aller voir ce qui se passe dans ma tête. Donc, tu vois, j'avais rien de très précis. J'étais pas en mode, ouais, je veux trouver une nouvelle offre et tout ça. Donc, j'avais envie, bien sûr, au fond de moi, de clarifier et de voilà. Mais c'était pas une priorité, tu vois. Donc, ça, c'était vraiment important. Je vais regarder s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, mais en tout cas, ouais. Le retour à la réalité a été très dur. Passer du rien, genre aucune source de distraction, à parler, retour d'utel le 11e jour, retour dans la ville, parce que moi j'habite en ville, là j'étais en pleine nature, mais genre il n'y a pas un pet de bruit, tu méditais, t'entendais les oiseaux, les chevaux, enfin genre c'était les seuls bruits que t'entendais. Et là, je rentre chez moi. En plus de ça, il y a un festival jusqu'à 1h du matin. J'ai pris la route en voiture. Il y avait des bouchons. Il faisait une chaleur à crever parce que canicule. Enfin, vraiment, je pense que je ne pouvais pas rentrer dans des pires conditions. Vraiment, j'avais plein de notifs sur mon téléphone. Ça, c'était ma hantise. J'ai eu un petit peu d'anxiété quand j'ai repris mon tel. Je t'avoue que je n'avais absolument pas envie de l'ouvrir. Si je ne travaillais pas via Insta, je pense que j'aurais soit arrêté d'avoir un téléphone, ou j'aurais acheté, tu sais, un téléphone juste pour appeler, envoyer des textos. Parce que vraiment, ça m'a apporté tellement de choses. Je me suis rendu compte qu'en vrai de vrai, non seulement j'étais trop sur mon téléphone, ça j'en avais conscience, mais j'avais pas conscience de l'impact qu'il a, que son utilisation a sur mon esprit et sur mon corps. J'avais pas conscience à quel point il me permet de m'enfuir et de me distraire de ma réalité, de mes pensées réelles, de qui je suis vraiment. Parce qu'en fait, quand tu l'utilises, donc déjà, c'est une source extérieure qui te fait voir l'extérieur. Parce que quand tu l'utilises, tu vas sur les réseaux concrètement. Et quand tu vas sur les réseaux, tu regardes la vie des gens. Tu regardes ce que pensent les autres. Tu regardes leur manière de voir les choses. Donc c'est complètement à l'opposé de toi, ou en tout cas, c'est complètement à l'extérieur de toi. Et donc ça vient complètement rajouter des choses dans ta tête, alors que de base, tu ne sais même pas ce qu'il y a. Donc c'est dommage parce que ça vient embrumer du coup toute ta créativité. Donc je me plaignais avant. Entre guillemets, j'avais la sensation de ne pas être trop trop créative. Bon, je l'ai développé en prenant mes 1 heure par jour. Mais alors là, c'est pour ça que je suis en train de développer une nouvelle discipline sur ma manière d'utiliser mon téléphone et mes sources de distraction, parce que comme j'ai vu l'impact que ça a, et à quel point ça vient m'embrumer l'esprit. Et à quel point, en fait, finalement, ça peut être source d'anxiété sans s'en rendre compte, parce qu'avant, je ne m'en rendais pas compte, mais comme là, j'ai ultra conscience de mes ressentis, je ressens tout en fois 100 par rapport à avant. Mais vraiment en fois 100. Et c'est assez déstabilisant et en même temps incroyable parce que du coup, je réagis dans l'instant. C'est-à-dire qu'avant, j'utilisais mon téléphone, j'avais pas conscience sur l'instant que j'étais en train de d'être dessus, tu vois. Genre, des fois, tu lèves la tête, tu fais, oh putain, ça fait 20 minutes que je suis en train de scroller, j'ai même pas capté, ou ça fait 20 minutes que je suis en train de répondre, ou ça fait, j'en sais rien. Et bah là, dans l'instant où je suis dessus, j'ai conscience que je suis dessus. Et du coup, je sais ce que je suis en train de faire. Et du coup, je suis pas en train de faire autre chose. Et je suis focus. Ça, c'est un truc incroyable qui m'est arrivé sur le après. C'est ma capacité de focus. Ma capacité de concentration, elle est décuplée à un point. Et que si aujourd'hui, tu as du mal à te concentrer, c'est parce qu'en fait, tu as pris l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. Parce que tu as pris l'habitude, tu as donné l'habitude à ton cerveau d'être distrait. Et si tu as du mal à te concentrer, c'est uniquement parce que tu es en excès dans tes distractions. Ça, j'avais absolument pas conscience. Je savais que je faisais plein de choses, mais je savais pas que ça impactait complètement mon focus, mon esprit et tout ça. Enfin, vraiment, prise de conscience incroyable. Donc ça, je suis en train de me créer tout un tracker d'habitudes sur mes 30 prochains jours pour conserver les choses qui me font vraiment du bien et qui font grave la différence. Donc je te ferai un peu un suivi. En tout cas, surtout sur l'utilisation de mon téléphone, des réseaux sociaux. Là, par exemple, j'ai absolument plus envie de regarder tout ce qui est story Insta et tout ce qui est feed. Et je pense que je vais me mettre une sorte de créneau d'inspiration. C'est-à-dire, ok, je peux regarder de temps en temps avec conscience des choses qui m'inspirent, mais dans le seul but de m'inspirer et à un certain moment donné, parce que plus ça devient de la distraction. Et donc, ça vient distraire mon esprit. Et donc, ça vient me déconnecter de ce qui est important pour moi. Enfin bref, tout l'enchaînement, tu le vois après. Donc, c'est vachement important. Là, c'est vraiment très compliqué pour moi d'utiliser mon téléphone. C'est très compliqué pour moi aussi en termes de relations. Je t'avoue, j'ai pas trop envie de voir les gens. J'ai pas trop envie de les entendre. J'ai tellement été dans une clarté d'esprit et quelque chose de très bienveillant et de très transformateur et de très puissant dans une bulle un peu de self-care, tu vois, en mode grave centré sur moi, sur mon bien-être, que pour l'instant, j'ai envie de me protéger un peu à ce retour à la réalité et j'ai pas envie de voir les gens, j'ai pas envie de les écouter, j'ai pas envie d'être au contact de pessimistes, de visions pessimistes, de plaintes, d'excuses, de côté défaitiste, d'histoires que les gens se racontent. J'ai envie de revenir tranquillement dans ce quotidien, parce que sinon ça va être trop brutal et j'ai des choses à mettre en place en amont parce que j'ai tellement vécu de choses et ça m'a tellement apporté que en fait revenir comme avant, c'est impossible parce que j'ai eu trop de prise de conscience. Et c'est là que tu vois comment savoir si je me suis transformée quand tes actes sont différents, quand tes pensées sont différentes. Mais au-delà de ça, l'épreuve, c'est vraiment les actes. Genre là, je suis rentrée. Le premier truc qui m'a choquée quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé que mon appart, c'était un bordel monstre. Alors qu'en vrai, tu viens, il n'y avait rien de folichon. Enfin, oui, il y avait plein de trucs à droite, à gauche, mais en vrai, ça va, il y a largement pire. C'est du propre, n'ont pas besoin de passer, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, je suis arrivée, et comme j'étais dans une clarté d'esprit, dans quelque chose de très simple, très pur, zéro source de distraction, et ben je suis arrivée chez moi. Et ben, je trouvais qu'il y avait trop d'informations en mode, mais j'ai trop de trucs qui m'attirent l'esprit et finalement qui viennent me tirer un peu vers le bas. Et c'est marrant parce que avant de partir, depuis un long moment, plusieurs mois, je supportais plus d'être chez moi et en tout cas de travailler chez moi, ça me gavait. Et je pense prendre conscience maintenant pourquoi, parce que trop d'informations et ça m'empêchait de me concentrer en fait. Parce que des livres par-ci, des machins par-là. Donc là, la première chose que j'ai faite quand je suis rentrée, c'est faire le tri, ranger des trucs que je voulais ranger depuis des mois, mais que je mettais de côté. Là, j'ai une discipline de malade, mais comme jamais j'ai eu, j'en avais déjà une avant, mais alors là, elle est d'une puissance, parce que du coup, c'est lié avec ma capacité de focus, de concentration et ma clarté d'esprit, enfin, tout est lié. Et du coup, ouais, alors je suis non seulement en train de tout trier, ranger, mais en plus de ça, en train de réaménager. Là, je vais genre vendre mon canapé, je vais retirer ma télé, parce qu'en fait déjà de base je regardais pas trop la télé et les seules raisons pour lesquelles je regardais c'est parce que c'était pour combler du temps, genre en mode Netflix et tout. Et en fait j'ai absolument plus envie de me nourrir de cette manière. Alors oui c'est radical, mais j'ai tellement vu de l'impact que ça a sur mon esprit qu'il est hors de question en tout cas de garder ça à portée de main. Donc oui si j'ai envie d'aller voir un film, je peux toujours aller chez des amis, je peux aller au ciné, enfin il y a plein d'opportunités, j'ai un PC si besoin, enfin. Tout va bien, mais en tout cas, c'est quelque chose aujourd'hui dont je n'ai pas besoin et que j'ai besoin d'éclaircir mon espace. Et en fait, c'est vraiment ça. Quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que mon environnement n'était clairement pas à l'image de mon état d'esprit en rentrant. Je suis arrivée dans un environnement brouillé à l'image de mon état d'esprit en partant. Alors, j'avais pas du tout la sensation de l'être, mais du coup, je me suis dit, mais ton environnement n'est que le prolongement de ton état d'esprit. Donc là, je range. Donc bien sûr, on ne fait pas tout d'un coup, on fait pièce par pièce. Là, j'ai fait ma chambre, donc ma chambre est nickel. Je suis en train de commencer mon salon. Et voilà, pièce par pièce, j'ai mis des petites photos avant-après, c'est assez drôle, mais quand j'aurai tout fait, je ferai les avant-après parce que ça va être assez sympa. Mais très contente et il y a une belle prise de conscience aussi. Avant de partir, je me souviens à ma mère, ma soeur et ma meilleure pote que je suis absolument, absolument pas du tout une personne inspirée par la décoration. Genre... zéro idée, enfin vraiment truc où je disais même non mais moi c'est pas mon truc, enfin la déco c'est vraiment le cadet de mes soucis, donc je demandais à ma mère, ma sœur et ma meilleure pote de me donner leurs idées sur ce qui était possible de faire dans mon appart parce que j'avais envie, tu vois j'avais quand même cette envie de changement mais voilà ça me passait au-dessus et en fait là je suis arrivée. J'avais des idées, mais plein la tête. Et pareil, hyper clair, visualisation. Je sais exactement ce que je veux. J'ai demandé à personne. J'ai envoyé des photos à ma mère et ma soeur. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, genre, enfin, ça me ressemble pas à la Camille d'avant, mais tellement pas. Et du coup, c'est assez drôle de se redécouvrir finalement et de voir ce que tu n'imaginais pas. Parce que déjà, t'avais des croyances limitantes, forcément. À un moment donné, toutes tes croyances. Et du coup, c'est assez intéressant à quel point toutes tes croyances peuvent changer, mais vraiment toutes. Selon ce que tu t'autorises à vivre et tout ça. Donc ça, c'est assez drôle. Autre chose qui m'a grave switché, c'est que mes sens et mes émotions, mes ressentis sont décuplés. Genre, je sens tout le temps l'énergie dans mon corps. C'est assez bizarre. Et du coup, le moindre. Comment je pourrais dire ça? La moindre chose extérieure, que ce soit des paroles, donc quelqu'un qui parle, du bruit extérieur, les voitures, de la musique, et ben ça vient. C'est très fort, je l'entends plus fort qu'avant, ça me dérange plus facilement. Donc je pense que c'est un peu le contre-coup en rentrant, mais c'est assez déstabilisant parce que j'adore écouter de la musique et tout ça. Là, j'ai pas trop envie. J'ai pas envie de lire. D'habitude, je laisse toujours ma fenêtre ouverte. Là, je ne supporte pas du tout entendre les voitures et tout ça. Donc, je pense que c'est un peu la phase d'adaptation en rentrant. Donc, c'est pour ça que je te ferai un autre podcast pour t'expliquer le après, plusieurs temps après, parce que là, je suis en mode. Enfin, je suis rentrée dimanche. On est mardi. Donc, il faut aussi me laisser un petit temps. Donc, voilà. Ce qui m'a choquée aussi, c'est vraiment mes capacités de concentration, de focus, ma créativité de ouf. Ma clarté d'esprit par rapport à ma manière d'arriver à avoir des images visuelles de ce que je veux, mes idées qui viennent que de moi et que de moi et pas de sources extérieures et pas parce que j'ai vu que un tel faisait, du coup ça m'inspire et peut-être que moi, machin, non. Ça c'est vachement impressionnant. Ma discipline en termes de. Elle s'est hyper renforcée parce que bah, en fait, le fait d'avoir un cadre pendant 10 jours. Mais le cadre, le même, que tu aies envie ou pas de le suivre, et ben en fait, ça renforce de fou ta zone. Enfin, ça améliore ta zone d'inconfort, ça l'étend. Ou ça la rapetisse, du coup. Enfin, bref, t'as capté. Et du coup, bon, là pour l'instant, je me réveille à 3h30, 4h du mat, parce que ben, du coup, j'ai pris l'habitude. Je fais une petite sieste quand même, parce que pour garder le rythme. Ah oui, il y a un autre truc que je dois te raconter aussi. Mais j'aime trop ce rythme parce que le matin là-bas, bah forcément, il fait très très nuit. Donc tu voyais les constellations, la lune, forcément. Et incroyable le bonheur, enfin le silence total. Et ça, franchement, je vais le garder parce que ça me permet d'avoir vraiment des périodes de silence et je suis hyper productive en plus à ces moments-là. Genre, ce matin, de 3h du matin à 7h, j'étais en train de tout ranger et tout. Je me sentais trop bien. Enfin, c'était super calme, c'était hyper agréable. Donc, en sachant qu'avant de partir, je me levais à 8-9h. Donc là, je suis clairement sur un rythme de sommeil à 5h, donc sans réveil. Hein. Je me réveille à 4h, 3h30, 4h du mat sans réveil. Donc je suis mon rythme. Si mon corps estime qu'il se réveille maintenant, c'est qu'il en a envie. Et c'est qu'il a répondu à ses besoins. En plus, j'ai un bracelet hyper évolué qui vérifie tout ça. Donc ça me permet de suivre. Et donc ça, je le garde. C'est ce que je vais mettre sur mon tracker d'habitude là pendant 30 jours. Un truc assez ouf. Donc j'ai repris le sport lundi. Ça faisait 15 jours que je n'avais pas fait de sport. Donc les 2-3 jours avant de partir, je n'en avais pas fait. Et j'appréhendais un peu, tu sais, ce contre-coup de waouh, 15 jours sans sport. C'est quand même du crossfit, c'est quand même hardcore. Je me suis dit, est-ce que j'ai fort perdu, que ça soit en muscle ou en endurance? Et en fait, comme mes sensations sont décuplées, j'ai vécu une séance sensationnelle. Genre, j'ai eu des ressentis, mais genre incroyables, parce que pour une fois, j'ai fait une séance où j'étais grave dans l'instant présent. Genre, je ressentais tout au moment T, et c'était incroyable. Genre, c'était dingue. Enfin, vraiment, j'ai trop aimé cette séance. J'ai pas du tout subi, j'ai eu l'impression d'avoir fait du sport, allez, il y a 3-4 jours. Donc assez surprise parce que ça m'est déjà arrivé d'arrêter le sport pendant 7 jours parce que je partais et je revenais, franchement, j'ai subi de ouf. Donc ça, c'était assez incroyable. Donc je vais répondre aux questions qui me restent et après, bah, comme ça, j'aurai fait le tour. Est-ce que c'est facile d'apprendre à méditer? Non, je dirais que tout ce que tu ne connais pas, c'est pas facile de le faire parce que c'est facile d'apprendre, mais c'est pas facile de l'appliquer de manière durable et d'être dans une optique d'adaptation et d'amélioration. C'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Et si tu veux de la facilité, ben tu n'apprendras jamais rien parce que tout ce qui est apprentissage t'amène obligatoirement à vivre de l'inconfort. Et donc qui dit inconfort dit difficulté. Est-ce que je me suis sentie seule? Mais oui. Surtout dans les moments où en fait je me suis rendu compte que il n'y avait que moi qui pouvais m'aider. Dans les moments de down, franchement, ça a été assez compliqué dans ces moments-là. Et en même temps, c'était assez game changer parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de personne et que peu importe ce que j'allais vivre dans ma vie, je savais le gérer. Ça aussi, c'est en lien avec le soyez heureuse de mon père parce que j'ai vraiment pris conscience de ça en fait. Que j'ai besoin de rien, même pas de sport ou d'autre, et que j'ai l'état d'esprit qui me permet de tout vivre et de tout corriger et de tout résoudre et de tout surmonter. Et ça, c'est assez incroyable et enfin, ça me fait des frissons rien que d'en parler. Est-ce que je me suis profondément ennuyée? J'adore cette question. Alors, à la base, je suis quelqu'un qui est très dynamique, comme je te l'ai dit, beaucoup dans l'action, beaucoup de distractions, toujours dans le faire, faire, faire. J'adore tester des nouvelles choses. Enfin, et du coup, ça c'était un peu le truc que j'ai appréhendé en mode mais je vais que méditer et en plus de ça, j'ai le droit de rien faire d'autre. Donc t'as le droit de marcher dans le parc, encore heureux. D'ailleurs, c'est très marrant parce que je pense que tu sors du contexte, tu viens pendant le truc et tu regardes ce qui se passe, t'as clairement l'impression d'être dans Walking Dead, dans un camp de réfugiés parce qu'il y a tout le monde qui baisse la tête, qui marche au ralenti, il y a personne qui se parle, il n'y a pas un sourire. Franchement, c'est. Des fois, je rigolais toute seule en regardant et en me disant, mais Cam, dans quoi tu t'es embarquée? Franchement, c'est un peu chelou, sorti du contexte comme ça. Mais ça fait partie du process et je comprends amplement pour quelles raisons on n'a pas le droit de parler et d'avoir des quelconques réactions envers les autres. Donc, est-ce que je me suis profondément ennuyée? À certains moments, oui. J'ai trouvé le temps long, surtout au début parce que tu te détaches de ton habitude de je m'ennuie, je fais. Là, tu t'apprends à voir que l'ennui, c'est une opportunité d'avoir des idées, de ressentir des choses, de voir des choses que tu ne vois pas et de ralentir en fait. Ça aussi, c'est un après assez ouf. J'ai grave envie de ralentir mon rythme et de profiter plus de chaque instant pleinement et d'être moins dans le faire, faire, faire. Alors j'ai envie de faire des choses, mais de prendre le temps de les faire. Ça, c'est quand même assez dingue. Donc là, il y avait une question, mais j'y ai un peu répondu. Est-ce qu'on pense plus au monde extérieur? Est-ce qu'on focus sur notre corps et nos sensations? Et du coup, on ressent plus facilement de sensations plus subtiles que l'on n'en ressent normalement. Bah oui, parce qu'en fait, comme t'as que ça à faire, à penser et la technique à appliquer, ben, ton seul focus, c'est toi-même, c'est tes ressentis, c'est ton corps et c'est ton esprit. Donc, je pense que c'est pour cette raison que ça se décuple, parce que tu augmentes énormément ton focus sur toi, alors que d'habitude, ben, il est peut-être un peu sur toi, mais pas tant que ça. Et là, je le vois, là, depuis que je suis rentrée, et mes sensations, elles sont... Je me sens toute remuée, toute bousculée, toute bizarre. C'est nouveau, tu vois. Donc, faut le temps que je prenne l'habitude de cette nouveauté. Mais ouais, carrément. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'ai dû oublier des choses. Je pense certainement que je referai un épisode quand enfin, quelques semaines ou dans un mois peut-être, parce que là, enfin, tous les jours, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui bouge. J'ai des nouvelles prises de conscience. J'ai encore des personnes qui m'ont dit. Tu verras, donc tu as des résultats à court terme, donc sur l'instant et quand tu rentres, mais tu en as qui se décuplent à moyen long terme. Par exemple, là, j'ai décidé donc de continuer cette technique. C'est ce qui te conseille pour conserver les résultats et les amplifier. Et donc, je médite du coup 1 heure le matin, 1 heure le soir, 2 heures par jour. Ça me permet de continuer à ressentir, à peaufiner et surtout à être en contact complet avec mon corps et mon esprit. Et en fait, là, j'ai encore une fois plein d'idées, ça développe ma clarté, ça me donne aussi des moments de silence et de calme, et ça me permet de continuer à développer ma discipline, parce que sache une chose, si on m'avait dit est-ce que tu en as envie? Absolument pas, il y a des moments où j'ai qu'une envie, c'est bah, d'aller me coucher et tout. Mais encore une fois, je repense à ce stage, je repense à cette discipline qui derrière te génère énormément de choses, et ça, c'est important. Je réfléchis, mais je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc là, je reprends un rythme tranquille. Je reprends mes marques, voilà, je fais petit à petit, j'ai envie de profiter de ce que je ressens, de voir ce que ça m'apporte et d'agir en conséquence. Donc, on verra, en tout cas, je me sens super bien. Je pense que je me suis jamais sentie aussi apaisée et aussi, je dirais pas heureuse, le mot heureuse, il est complètement pas adapté. Je dirais pas épanouie non plus, je sais même pas quel terme appliquer, mais je me sens super bien, et c'est trop bizarre de ressentir tout ça. C'est assez nouveau, donc là je suis un peu en mode voilà, découverte et en mode acceptation et en mode à l'écoute de ce renouveau. Et puis je vais voir ce qui se passe, et puis bah, je pense que je ferai un bilan d'ici un mois. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Si tu en as d'autres, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça t'aura servi. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire, je te mets le lien dans la description de ce podcast. Sache une chose, c'est vraiment une expérience unique, extraordinaire, et dans tous les cas qui va t'apporter des choses qui est ultra enrichissante et je pense qui est à vivre au moins une fois dans sa vie. Honnêtement, je vais le refaire. J'essaie de me fixer une fois par an, mais on verra au pire une fois tous les 2 ans. Parce qu'en fait, donc, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui l'ont vécu plusieurs fois. Genre, il y en a, c'était leur 5e fois, il y en a, c'était leur 2e fois. Et tu peux pas revivre la même chose parce que bah, là, du coup, c'est moins l'inconnu. Mais en fait, t'as pas du tout les mêmes résultats et tu travailles différemment parce qu'en fait, la 2e fois que tu y vas, tu travailles pas la même chose et tu évolues dans la technique. Et du coup, c'est vachement enrichissant. Du coup, voilà. J'ai envie de le refaire vraiment parce que ça m'a impacté de ouf. Et moi aussi, ça me permet de faire un vrai break pour mon état d'esprit par rapport à tout mon quotidien et je trouve ça tellement incroyable, vraiment expérience incroyable et je m'attendais pas à ça. Je savais pas à quoi m'attendre, mais alors franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée et comme j'ai dit, c'est à la fois ma pire expérience parce que c'était hyper dur et ma meilleure parce que je reviens transformée. Vraiment, je me sens différente, je me sens changée et je me sens bien. J'ai l'impression. Je pense que j'en serai jamais à ce niveau-là, là où j'en suis en termes de ressenti, si je n'avais pas vécu ce challenge. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté et je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.